Une révélation divine des horreurs de l'enfer par Mary Catherine Baxter. Catherine Baxter est née à Chattanooga, dans le Tennessee. Dès son enfance, elle a été élevée dans les voies de Dieu. Toute petite, sa mère lui a fait connaître Jésus-Christ et le salut qu'il offre. Catherine a expérimenté la nouvelle naissance dont parle la Bible, à l'âge de 19 ans. Après avoir servi le Seigneur pendant plusieurs années, elle a été quelque peu rétrograde. Mais l'Esprit de Dieu ne l'a pas abandonnée, elle est revenue au Seigneur et a donné sa vie tout à nouveau à Christ. Elle le sert aujourd'hui encore avec fidélité. Vers le milieu des années 60, Catherine a déménagé avec toute sa famille à Détroit, dans le Michigan, où elle a vécu quelques années. Plus tard, elle a encore déménagé à Belleville, une autre ville du Michigan. C'est là que Dieu a commencé à lui donner des visions. Pendant toutes ces années dans le Michigan, elle est restée sous l'autorité des anciens et des responsables de son église. Elle est maintenant, depuis 1983, à plein temps dans le service de Dieu. Catherine est mariée depuis plus de 30 ans à Bill Baxter. Ils ont 4 enfants et plusieurs petits-enfants qui la soutiennent dans son ministère. Les serviteurs de Dieu qui la connaissent parlent d'elle et de son ministère très positivement. Elle insiste sur l'action du Saint-Esprit à chacune de ses réunions, et beaucoup de miracles s'y sont déjà produits. Les dons du Saint-Esprit avec leur démonstration de puissance se manifestent dans ces réunions où elle se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Elle aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée, et elle désire par-dessus tout gagner des âmes pour Jésus-Christ. Elle est une servante vraiment consacrée à son Seigneur. Elle a reçu un appel plus particulièrement dans les domaines des rêves, des visions et des révélations. En 1976, alors qu'elle habitait Belleville, Jésus lui est apparu sous forme humaine, mais aussi dans des rêves et des visions. Depuis lors, il lui a montré l'enfer, avec les différentes conditions des âmes qui sont perdues dans ses profondeurs. Elle a également reçu des visions sur le ciel ainsi que sur la période prochaine de la grande tribulation et de la fin des temps. À une certaine époque, Jésus lui est apparu chaque nuit, pendant 40 nuits. Il lui a fait savoir que le message de cette révélation était destiné au monde entier. Un film est même envisagé pour plus tard. La nuit, elle allait en enfer avec Jésus, et le jour elle s'employait à trouver les mots exacts pour apporter cette révélation au monde. Introduction. Je reconnais que sans la puissance surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ, ce livre n'aurait pas pu être écrit, pas plus d'ailleurs que tout autre livre qui se propose de parler de l'après-vie. Jésus seul détient les clés de l'enfer, et c'est lui qui a payé le prix de notre admission au ciel. Écrire ce livre aura été pour moi une expérience longue, solitaire et exigeante. En fait, plusieurs années se sont écoulées avant que cette révélation ne soit écrite dans un livre. Cette révélation m'a été donnée par le Seigneur en 1976. Cela m'a pris 8 mois pour la mettre sur le papier. La rédaction du manuscrit lui-même a couvert une période de plusieurs années. Puis, indiquer une année dans l'ordre des références bibliques de la fin du livre m'a pris une autre année. L'achèvement de l'ouvrage m'a pris l'essentiel de l'hiver 1982 et de l'année 1983. Outre ce temps de rédaction, c'est pendant une période de 40 jours que Jésus m'a emmené en enfer. Je vois aujourd'hui que le Seigneur me préparait déjà à écrire ce livre lorsqu'encore enfant j'avais des rêves sur Dieu. Après ma nouvelle naissance, j'ai eu un amour très fort pour ceux qui sont perdus et je voulais voir les âmes sauvées. Après cela, le Seigneur m'est apparu en 1976, et il m'a fait savoir qu'il m'avait choisi pour une mission particulière. Il m'a dit « Mon enfant, je vais me manifester à toi afin d'amener beaucoup de personnes des ténèbres à la lumière. » Le Seigneur Dieu t'a choisi pour une mission, mettre par écrit toutes les choses que je vais te montrer et te dire. Je vais te révéler la réalité de l'enfer afin que beaucoup puissent être sauvés en se repentant de leurs mauvaises voies avant qu'il ne soit trop tard. Moi, Jésus, je ferai sortir ton âme de ton corps et je te transporterai en enfer et en d'autres lieux qu'il faut que tu voies. Je te donnerai aussi des visions du ciel et d'autres lieux et je te donnerai de nombreuses révélations. Mary Catherine Baxter. Chapitre 1er à l'intérieur de l'enfer. En mars 1976, alors que j'étais à la maison en train de prier, j'ai reçu une visite du Seigneur Jésus-Christ. J'avais prié dans l'esprit pendant plusieurs jours, quand, soudainement, j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu. Sa puissance et sa gloire emplirent la maison. Une lumière très forte illumina la pièce dans laquelle je me trouvais, une douce et merveilleuse sensation de paix m'environna. Puis des flots de lumière déferlèrent par vagues successives qui roulaient les uns sur les autres, s'enveloppaient et s'interpénétraient. C'était une vision impressionnante. Alors la voix du Seigneur se fit entendre « Je suis Jésus-Christ, ton Seigneur. Je veux te donner une révélation afin de préparer les saints à mon retour et amener beaucoup de gens à la droiture. Les puissances des ténèbres sont une réalité, et mes jugements sont véritables. Mon enfant, je vais t'emmener en enfer, par mon esprit, et je vais te montrer beaucoup de choses que je veux faire connaître au monde. Je vais t'apparaître plusieurs fois, je vais faire sortir ton esprit de ton corps et je vais réellement t'emmener en enfer. Je veux que tu écrives un livre dans lequel tu diras ce que tu auras vu et toutes les choses que je vais te révéler. Toi et moi, ensemble, nous allons parcourir l'enfer. Tu feras un récit de ces choses qui étaient, qui sont, ou qui vont arriver. Mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Je suis celui qu'il suit et nul n'est semblable à moi, Seigneur, m'écriai je dis. Que veux-tu que je fasse? Mon être entier désirait crier à Jésus et lui dire toute ma reconnaissance pour sa présence. Je dois dire que ce qui était le plus merveilleux, c'était cet amour qui était tombé sur moi. L'amour le plus beau, le plus paisible. Plein de joie. Un amour puissant que je n'avais jamais encore ressenti. Des louanges envers Dieu commencèrent à se déverser de mon être. J'eus soudain le désir de lui donner ma vie tout entière, afin qu'il puisse l'utiliser pour sauver les gens de leurs péchés. Je sus par son esprit que c'était véritablement Jésus, le Fils de Dieu qui se tenait là dans la pièce avec moi. Je ne trouve pas les mots pour exprimer cette divine présence. Mais je sais que c'était bien le Seigneur mon enfant, me dit Jésus, je vais t'emmener à l'intérieur de l'enfer par mon esprit pour que tu puisses faire un rapport sur cette réalité, pour que tu dises au monde entier que l'enfer existe, pour que les perdus sortent des ténèbres et soient amenés à la lumière de mon évangile instantanément. Mon esprit fut séparé de mon corps et je m'élevai avec Jésus au-dessus de ma chambre, en direction du ciel. Je me rendis très bien compte de ce qui m'arrivait. Je vis mon mari et mes enfants dans notre maison, en dessous de nous. Ils étaient endormis. C'était comme si j'étais morte. Mon corps était resté derrière moi, sur le lit, mais mon esprit s'élevait avec Jésus au-dessus du toit de la maison. Et c'était comme si le toit avait été entièrement roulé. Je pouvais voir très clairement les membres de ma famille endormis dans leur lit. Je sentis Jésus me toucher. « Ne crains pas, me dit-il. Ils sont en sécurité. Ils connaissaient mes pensées. Je vais maintenant faire de mon mieux pour essayer de vous décrire, point par point, ce que j'ai vu et ressenti. Le Seigneur m'a donné la signification de la plupart des choses que j'ai vues. Mais au sujet de certaines, il ne m'a rien dit. Il y a donc des choses que je n'ai pas comprises. J'ai su, depuis lors, et je sais maintenant, que toutes ces choses existent véritablement et que seul Dieu pouvait me les montrer. Gloire à son saint nom. Croyez-moi, chers amis, l'enfer est une réalité. Je l'ai traversé par l'esprit plusieurs fois dans l'expérience qui aura été la préparation de ce livre. Nous fûmes bientôt très haut dans le ciel. Je me retournai vers Jésus pour le regarder. Il était toute gloire et toute puissance. Quelle paix émanait de lui. Il prit ma main. « Je t'aime, me dit-il. N'aie pas peur. Je suis avec toi. » Nous nous élevâmes de plus en plus haut dans le ciel. Je pouvais maintenant voir la terre au-dessous de nous. Des sortes d'entonnoirs répartis à différents endroits de la terre jaillissaient en tournoyant autour d'un point central, puis se rétractaient. Ils tournaient très haut au-dessus de la terre, ressemblant à des silhouettes ondulantes, énormes et sales, comme provocantes, qui se mouvaient continuellement. Ils sortaient de partout sur la terre. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» demandai-je à Jésus, alors que nous approchions de l'un de ces entonnoirs. Il me répondit : « Ce sont les entrées de l'enfer. Nous allons emprunter l'un de ces passages pour pénétrer à l'intérieur de l'enfer. » C'est ce que nous fîmes tout de suite après. On aurait dit un tunnel qui tournait sur lui-même dans les deux sens, comme une toupie. D'épaisses ténèbres descendirent sur nous et avec ces ténèbres nous parvint une odeur si horrible que je dus retenir ma respiration. Le long des parois de ce tunnel, se trouvaient des formes vivantes comme incrustées dans les murs. Des créatures sombres, de couleur grise. Ces formes remuaient et criaient après nous tandis que nous passions devant elles. Sans qu'on eût besoin de me le dire, je savais que c'était quelque chose de mauvais. Ces créatures pouvaient se mouvoir mais elles restaient attachées au mur. Elles dégageaient une horrible odeur et elles hurlaient en poussant vers nous des cris stridents. Je ressentis une force invisible circuler à l'intérieur du tunnel. Dans le noir, je pouvais parfois à peine distinguer ces créatures. Un brouillard sale et épais recouvrait la plupart d'Ordon. Tandis que nous progressions plus profondément dans le tunnel, ces créatures mauvaises se moquaient de nous. Elles essayaient de nous toucher mais ne le pouvaient pas, à cause de la puissance de Jésus. L'air était vraiment sale, pollué. Seule la présence de Jésus m'empêchait de hurler devant toute cette horreur. Mais oui, j'avais bien tous mes sens. Dans ce lieu je pouvais entendre, sentir, voir et même ressentir le mal. Dans chaque domaine mes sens devenaient plus sensibles. L'odeur et la saleté me rendirent presque malade, des hurlements emplissaient l'atmosphère alors que nous approchions du fond. Des cris perçants montaient à notre rencontre dans le noir du tunnel. Des bruits de toutes sortes emplissaient ce lieu. Tout autour de moi, je pouvais ressentir la crainte, la mort et le péché. La pire des odeurs que je n'avais jamais senties était partout, c'était l'odeur de la chair en décomposition. Elle semblait venir de toutes les directions. Jamais sur terre je n'avais ressenti autant de mauvaises choses, ni entendu autant de cris de désespoir. Très vite je compris qu'il s'agissait des cris de la mort. L'enfer était rempli de gémissements, je sentis un souffle malsain ainsi qu'une certaine attraction au-devant de nous. Des lumières, comme des éclairs ou des flashs, pénétraient l'obscurité et projetaient des ombres grises sur les murs. C'est à peine si je pus distinguer la silhouette d'une chose qui se tenait là juste devant moi. Lorsque je m'aperçus que c'était un gros serpent, je reculai sous le choc. Il rampait devant nous. En observant mieux, je vis que de partout ondulaient des serpents particulièrement laids. Nous allons bientôt entrer dans la jambe gauche de l'enfer, me dit Jésus. Devant toi, tu vas voir de grandes douleurs, de terribles peines, une indescriptible horreur. Serre-toi contre moi et je te donnerai force et protection pour traverser l'enfer. Les choses que tu vas voir serviront d'avertissement. Le livre que tu vas écrire sauvera beaucoup d'âmes de l'enfer. Ce que tu vois ici est bien réel. Mais ne crains pas, car je serai avec toi. Enfin, le Seigneur Jésus et moi nous arrivâmes au fond du tunnel. Nous nous enfonçâmes alors à l'intérieur de l'enfer. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire ce que j'ai vu, selon l'ordre que Dieu m'a donné. Devant nous, aussi loin qu'il m'était possible de voir, des objets volants fonçaient çà et là. Des gémissements et des plaintes emplissaient l'air. Plus loin, vers le haut, j'aperçus une faible lueur. Nous nous dirigeâmes vers elle. Le chemin était aride, couvert d'une poussière sale. Bientôt, nous arrivâmes à l'entrée d'un petit tunnel très sombre. Il y a des choses que je ne peux pas décrire, elles étaient trop épouvantables, et on ressent une peur paralysante en enfer. Je savais que si Jésus n'avait pas été avec moi, je n'en serais jamais revenu. Alors que j'écris ces lignes, il y a des choses que j'ai vues là que je n'ai toujours pas comprises. Mais le Seigneur sait toutes choses, et il m'a aidé à comprendre l'essentiel de ce que j'ai vu. Laissez-moi vous avertir. N'allez surtout pas dans ce lieu, c'est un endroit hideux de tourments, d'atroces douleurs et de peines qui n'ont aucune fin. Votre âme sera éternellement vivante. L'âme ne meurt jamais. Elle est votre véritable personnalité et elle ira, soit au ciel, soit en enfer. Si vous êtes de ceux qui pensent que l'enfer est ici sur terre, eh bien vous avez raison. C'est en effet là qu'il se trouve, au centre même de la terre. Et il y a là des âmes tourmentées nuit et jour. Il n'y a pas de réjouissance en enfer, pas d'amour, pas de compassion, pas de repos. Ce n'est qu'un lieu de douleur qui dépasse l'entendement. Chapitre 2 La jambe gauche de l'enfer. Une odeur épouvantable emplissait l'atmosphère dans la jambe gauche de l'enfer, me dit Jésus, il y a de nombreux puits. Ce tunnel communique avec d'autres parties de l'enfer. Mais nous allons tout d'abord passer quelque temps dans la jambe gauche. Ces choses que tu vas voir resteront à jamais gravées dans ta mémoire. Il faut que le monde connaisse la réalité de l'enfer. Beaucoup de pécheurs et même certains parmi mon peuple ne croient pas que l'enfer est une réalité. Je t'ai choisi afin que tu leur révèles ces vérités. Tout ce que je vais te montrer concernant l'enfer est vrai, de même que toutes les autres choses que je vais te montrer. Jésus lui-même s'est révélé à moi sous la forme d'une lumière étincelante, plus brillante que le soleil. Et la silhouette d'un homme était au centre de cette lumière. Quelquefois, j'ai vu Jésus tel un homme. Mais d'autres fois, c'est sous une forme d'esprit qu'il s'est montré. Il prit la parole à nouveau, mon enfant, lorsque je parle, c'est le Père qui a parlé. Le Père et moi nous sommes un. Rappelle-toi que par-dessus toute autre chose, il faut aimer et se pardonner les uns les autres. Viens, maintenant, suis-moi. Tandis que nous marchions, des esprits mauvais fuyaient la présence du Seigneur mon Dieu, m'écriai je dis. Mais qu'est-ce qu'il y a encore après ça? Comme je l'ai déjà dit, j'étais en enfer en possession de tous mes sens. Tous ceux qui sont en enfer sont en possession de toutes leurs facultés. Les miennes fonctionnaient alors à plein. La peur était partout présente. Des dangers difficiles à exprimer menaçaient de toutes parts. Chaque pas que je faisais était plus horrible que le précédent. Des embrasures de portes de la taille de petites fenêtres s'ouvraient et se fermaient rapidement sur le haut du tunnel. Des cris traversaient l'air chaque fois que ces créatures diaboliques passaient au-dessus de nous en direction de ces portes de l'enfer. Nous arrivâmes bientôt au bout du tunnel. Je tremblais d'effroi à cause du danger et de ce sentiment de peur qui nous entourait. J'étais vraiment reconnaissante envers Jésus pour sa protection. Je remercie Dieu pour la puissante protection qu'il nous accorde, même au milieu des cratères de l'enfer. Et cependant, malgré ce bouclier protecteur, je ne cessais de me dire intérieurement « Pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite », je regardais mon corps. Pour la première fois, je remarquai que j'étais sous la forme d'un esprit, et que ma silhouette était identique à elle-même. Je me demandai alors ce qui allait suivre. Jésus et moi nous nous engageâmes sur un sentier qui partait du tunnel. Il avait de larges rebords de terre de chaque côté. À perte de vue, on voyait de partout des cavités remplies de feu. Ces cratères mesuraient environ 1,20 m de diamètre et 1 m de profondeur. Ils avaient une forme de cuvette. Il y a beaucoup de cratères comme ceux-ci dans la jambe gauche de l'enfer, me dit Jésus. Viens. Je vais t'en montrer certains. Je me tins à côté de lui sur le sentier et je regardais à l'intérieur de l'un de ces trous. Du soufre incrusté, les parois du trou y rougeoyaient comme du charbon embrasé. Au centre du cratère, il y avait une âme perdue, une âme venue en enfer après sa mort. Du feu s'activa dans le fond du trou puis, soudainement, submergea l'âme perdue. L'instant d'après, le feu semblait mûrir sous forme de braise, mais avec un ronflement il se ranimait et balayait de nouveau l'âme tourmentée dans son cratère. Observant mieux, je vis que cette âme perdue était emprisonnée à l'intérieur d'un squelette. Seigneur, ne peux-tu pas les faire sortir? M'écriai-je à ce spectacle. Quelle horrible vision ce pourrait être moi, pensai-je. Seigneur, c'est affreux de voir ça et de savoir que c'est une âme vivante qui se trouve là. J'entendis un cri en provenance du premier cratère. Et je vis là, sous la forme d'un squelette, une âme qui implorait Jésus, « Aie pitié de moi, Seigneur » m'écriai-je dis. C'était la voix d'une femme. En la voyant, j'eus le désir de la tirer hors du feu. J'avais le cœur brisé. La forme squelettique d'une femme, enveloppée d'un brouillard sale et gris, s'adressait à Jésus. Sous le choc, j'écoutais ce qu'elle disait. De la chair décomposée pendait en lambeaux de ses os et, quand elle brûlait, tombait dans le fond du trou. À la place de ce qui avait été ses yeux, il n'y avait plus que deux cavités vides. Elle n'avait pas de cheveux. Le feu commençait à ses pieds en petites flammes, puis il grandissait tandis qu'il grimpait sur son corps, puis il la submergeait complètement. La femme semblait brûler en permanence même lorsque les flammes n'étaient que des braises. Du tréfonds de sa personne sortaient des pleurs et des gémissements de désespoir. « Seigneur, Seigneur, je veux sortir d'ici !» Elle restait les bras tendus en direction de Jésus. Je regardais Jésus. Je remarquai une grande tristesse sur son visage. « Mon enfant, me dit Jésus, tu es ici avec moi dans le but de faire connaître au monde que le salaire du péché c'est la mort et que l'enfer est une réalité. » Me tournant de nouveau vers la femme, je vis que des vers sortaient des os de son squelette. Le feu ne leur faisait rien, elle sait que ces vers sont en elle, me dit Jésus. Elle les sent, ô Dieu, aie pitié d'elle, criai-je, tandis que le feu atteignait son maximum et que l'horrible embrasement l'enveloppait à nouveau. De grands cris et de profonds sanglots secouaient le corps de cette âme. Elle était perdue. Il n'y avait pour elle aucun moyen d'en sortir. Jésus, pourquoi est-elle ici? Demandai-je d'une voix faible, car j'étais effrayé. Viens, me dit Jésus. Le sentier sur lequel nous nous trouvions faisait comme un circuit. Il serpentait entre les cratères à perte de vue. Les pleurs de ces morts vivants mêlés à des gémissements et à des cris atroces, parvenaient à mes oreilles de toutes parts. Il n'y avait aucun moment de répit. L'odeur de la mort et de la chair en décomposition emplissait l'air très lourdement. Nous nous dirigeâmes jusqu'au cratère suivant. À l'intérieur de celui-ci, de dimension semblable au précédent, il y avait un autre être squelettique. La voix d'un homme se fit entendre. Seigneur, aie pitié de moi. Ce n'était que lorsque ces êtres s'exprimaient que je pouvais savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Des sanglots plaintifs s'échappaient de cet homme. Je suis vraiment désolé, Jésus. Pardonne-moi. Sors-moi d'ici. Je suis dans ce lieu de tourment depuis des années. Je t'en supplie, fais-moi sortir de force. Sanglots secouaient sa carcasse squelettique. S'il te plaît, Jésus, fais-moi sortir, suppliait-il. Me tournant vers Jésus, je m'aperçus alors qu'il pleurait aussi. Levant la tête, il dit « Père, mon Père, aie pitié Seigneur Jésus, cria l'homme, n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés? Cela fait 40 ans que je suis là, depuis ma mort. » Jésus répondit « Il est écrit le juste vivra par la foi. Tous les moqueurs et les incrédules auront leur part dans les temps de feu. Tu n'as pas voulu croire à la vérité. Plusieurs fois mon peuple a été envoyé vers toi pour t'indiquer le chemin, mais tu n'as pas voulu l'écouter. Tu as ri de lui et tu as refusé l'évangile. Bien que je sois mort pour toi sur une croix, tu t'es moqué de moi et tu n'as pas voulu te repentir de tes péchés. Mon Père t'a donné de nombreuses occasions de pouvoir être sauvé. Si seulement tu avais écouté Jésus pleurer. Je sais, Seigneur, continua l'homme, je sais. Mais, maintenant je me repens, il est trop tard, dit Jésus. Le jugement est tombé Seigneur, poursuivit l'homme, certains membres de ma famille vont venir ici, car eux non plus ne veulent pas se repentir. S'il te plaît, Seigneur, laisse-moi aller leur dire qu'ils doivent se repentir de leurs péchés pendant qu'ils sont encore sur la terre. Je ne veux pas qu'ils viennent ici, ils ont des prédicateurs, répondit Jésus, des gens qui les enseignent, des anciens. Tout leur apporte l'évangile. Ils vont leur dire. Ils ont aussi l'avantage d'avoir des systèmes modernes de communication et toutes sortes de moyens d'apprendre à me connaître. J'ai envoyé vers eux des ouvriers afin qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. S'ils ne croient pas lorsqu'ils entendent l'évangile, ils ne seront pas convaincus non plus si quelqu'un ressuscite des morts. À ces mots, l'homme devint très fâché et commença à jurer. Des mots blasphématoires lui échappèrent. Je le regardais avec horreur tandis que les flammes s'élevaient et que sa chair morte décomposée commençait à brûler et à tomber en lambeaux. À l'intérieur de cette carapace de mort, je vis son âme, elle ressemblait à un brouillard sale et gris et elle remplissait son squelette. Je me tournai vers Jésus et m'écriai « Seigneur, cet horrible l'enfer est une réalité, me dit Jésus. Le jugement est une réalité et je les aime tant, mon enfant. Mais ceci n'est que le commencement des choses effroyables que je dois te montrer, il y a bien plus encore à voir. Va dire au monde pour moi que l'enfer existe, que les hommes et les femmes doivent se repentir de leurs péchés. Viens, suis-moi. Il nous faut continuer. Dans le cratère suivant, il y avait la toute petite carcasse d'une femme qui semblait avoir environ 80 ans. Je ne peux pas dire comment j'ai su son âge, mais je l'ai su. Sa peau était arrachée de ses os par la flamme continuelle. Seul demeurait le squelette avec une âme grisâtre à l'intérieur. J'observais le feu qui la consumait. Bientôt il ne resta plus que les os et les vers grouillants à l'intérieur que le feu ne pouvait pas brûler. « Seigneur, c'est terrible !» m'écriai-je. Je dis. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus loin. C'est affreux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Aussi loin que mes yeux pouvaient voir, des âmes étaient en train de brûler dans ces cratères embrasés. Mon enfant, c'est pour cela que tu es ici, me dit Jésus. Tu dois connaître et dire la vérité à propos de l'enfer. Le ciel est une réalité. L'enfer aussi est une réalité. Viens, nous devons continuer. Je me retournai vers la femme. Ses pleurs étaient d'une telle tristesse. Alors que je l'observais, elle joignit ses mains décharnées comme pour prier. Je ne pus m'empêcher de pleurer. J'étais en esprit, mais je pleurais. Je savais que les gens en enfer ressentaient toutes ces choses également. Jésus connaissait mes pensées. Oui, mon enfant, c'est bien vrai. Quand les gens viennent ici, ils ont les mêmes sensations et les mêmes pensées que lorsqu'ils étaient sur la terre. Ils se souviennent de leur famille et de leurs amis, et de toutes les fois où ils ont eu une chance de se repentir mais ont refusé de le faire. Ils gardent toujours toute leur mémoire. Si seulement ils avaient cru à l'Évangile et s'étaient repentis avant qu'il ne soit trop tard. Je tournai à nouveau mes regards vers cette vieille femme, et je m'aperçus qu'elle n'avait qu'une seule jambe. Et il semblait que des trous étaient creusés dans les os de sa hanche. Qu'est-ce que c'est, Jésus? Demandai-je mon enfant. Quand elle était sur terre, elle avait un cancer. Elle était très éprouvée. La chirurgie s'est employée à sauver sa vie. Au fil des années, elle est devenue une personne amère. Plusieurs parmi mon peuple sont allés prier pour elle et lui dire que je pouvais la guérir. Elle disait « C'est Dieu qui m'a fait ça. Elle ne voulait pas se repentir et croire à l'Évangile. Elle m'a même connu un certain temps, mais elle a commencé à me haïr. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin de Dieu et qu'elle ne voulait pas de ma guérison. Encore et encore, je l'ai suppliée de croire que je voulais l'aider, la guérir et la bénir. Elle m'a tourné le dos et m'a injurié. Elle disait qu'elle n'avait pas besoin de moi. Mon esprit l'a suppliée de se tourner vers moi. Et même lorsqu'elle m'a tourné le dos, j'ai encore essayé de l'attirer à moi par mon esprit. Mais elle ne voulait pas écouter. À la fin, elle est morte et est venue ici. La vieille femme implorait Jésus, Seigneur Jésus, pardonne-moi maintenant. Je regrette de ne pas m'être repentie quand j'étais encore sur terre. Elle criait à Jésus avec de gros sanglots, si seulement je m'étais repentie avant qu'il ne soit trop tard. Seigneur, aide-moi à sortir d'ici, je te servirai, je serai aimable. Est-ce que je n'ai pas assez souffert? Pourquoi ai-je attendu qu'il soit trop tard? Ou pourquoi ai-je attendu jusqu'à ce que ton esprit cesse de lutter contre moi? Tu as eu occasion sur occasion pour te repentir et me servir, lui répondit Jésus. La tristesse se lisait sur tout le visage de Jésus tandis que nous marchions. Alors que j'observais encore la vieille femme qui pleurait, je demandais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore plus loin? Je pouvais ressentir la peur tout autour de nous. La peine, les lamentations de douleur et une atmosphère de mort régnaient partout. Le cœur plein de chagrin et de pitié, nous avançâmes, Jésus et moi, jusqu'au cratère suivant. C'est uniquement par sa force que je pouvais avancer. À une distance conséquente, je pouvais encore entendre les pleurs de repentance et les suppliques de la vieille femme qui implorait le pardon. Je pensais, si seulement j'avais la possibilité de faire quelque chose pour l'aider. Pécheur, je vous en supplie, n'attendez pas le moment où l'Esprit de Dieu cessera de lutter contre vous. Dans le trou suivant se trouvait une femme. Elle était à genoux comme si elle cherchait quelque chose. Elle avait la forme d'un squelette criblé de trous. On voyait ses os par transparence et sa robe déchirée était en feu. Sa tête était chauve et il n'y avait que des trous à l'endroit de son nez et de ses yeux. De petites braises se consumaient autour de ses pieds, là où elle s'était agenouillée. Elle s'agrippait aux parois du cratère de soufre. Le feu s'accrochait à ses mains et de la chair morte ne cessait de tomber toutes les fois qu'elle griffait le mur. D'énormes sanglots la secouaient au accent circonflexe, Seigneur, au accent circonflexe, Seigneur, gémissait elle. Je veux sortir. Alors que nous l'observions, elle parvint finalement à atteindre le bord du cratère à l'aide de ses pieds. Je pensais qu'elle allait réussir à s'échapper, quand soudain, un énorme démon avec de grosses ailes qui semblaient cassées à leur sommet et pendantes le long de ses flancs, accourut jusqu'à elle. Il était de couleur marron foncé et avait des poils sur tout son corps de grande taille. Ses yeux étaient profondément enfoncés dans sa face et il avait la corpulence d'un énorme grizzly. Le démon se précipita sur la femme et la repoussa très brutalement au fond du trou, au milieu du feu. Je fus horrifiée de la voir tomber. Je me sentis brisée pour elle. J'aurais voulu la prendre dans mes bras, la soutenir et demander à Dieu de la guérir et de la sortir de là, mais Jésus, qui connaissait mes pensées, me dit « Mon enfant, le jugement a été prononcé. Dieu a parlé. Quand elle était encore enfant, je l'ai appelée maintes fois à me servir. Quand elle a eu 16 ans, je suis venue vers elle et je lui ai dit « Je t'aime. Donne-moi ta vie et suis-moi car je te destine à un service particulier. » Toute sa vie, je l'ai appelée. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle disait un jour, « Je te servirai. Je n'ai pas de temps pour toi maintenant. Je n'ai pas le temps, pas le temps. Je veux profiter de la vie. Je n'ai pas le temps de te servir Jésus. Demain, je le ferai. » Cependant, ce lendemain n'est jamais venu. Elle a attendu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La femme suppliait Jésus, « Mon âme est vraiment dans les tourments. Il n'y a pas moyen d'en sortir. Je reconnais que j'ai préféré le monde plutôt que toi, Seigneur. J'ai désiré les richesses, la renommée et la fortune, et je les ai obtenues. Je pouvais acheter tout ce que je voulais. J'étais mon propre patron. J'étais la femme la plus élégante de mon époque, la mieux habillée. J'avais la richesse, le succès et la gloire. Mais j'ai découvert que je n'ai pas pu les emporter avec moi dans la mort. Ô Seigneur, l'enfer est horrible. Je n'ai de repos ni jour, ni nuit. Je suis constamment dans la peine et les tourments. Aide-moi, Seigneur. » La femme regardait à Jésus avec tant de supplications. « Mon doux Seigneur, poursuivit-elle. Si seulement je t'avais écouté. Je vais le regretter à jamais. J'avais prévu de te servir un jour, quand j'aurais été prête. Je pensais que tu serais toujours là pour moi. Mais combien je me suis trompée. J'étais l'une des femmes de mon temps les plus sollicitées pour ma beauté. Je savais que Dieu m'appelait à me repentir. Toute ma vie, il m'a attirée avec des liens d'amour, et je pensais que je pouvais me servir de Dieu comme on se sert de n'importe qui. Je pensais qu'il serait toujours disponible. Oh oui, je me suis servie de Dieu. Il a tout essayé pour m'amener à le servir, bien que sans cesse je pensais que je n'avais pas besoin de lui. Comme je me trompais, car Satan a commencé à se servir de moi. Et j'ai commencé à le servir de plus en plus. À la fin, je l'ai préféré à Dieu. J'aimais le péché et je ne voulais pas me tourner vers Dieu. Satan a utilisé ma beauté et mon argent, toutes mes pensées se sont polarisées sur ce qu'il allait faire pour me donner plus de puissance. Malgré cela, Dieu a continué de m'attirer à lui. Mais je remettais toujours au lendemain ou au jour suivant ma décision. Et un jour, alors que je roulais en voiture, mon chauffeur a heurté une maison et j'ai été tué. Seigneur, je t'en prie, laisse-moi sortir. Pendant qu'elle parlait, ses mains et ses bras décharnés se tendaient vers Jésus et les flammes continuaient à la brûler. Le jugement est tombé, dit Jésus. Des larmes coulaient le long des joues du Seigneur tandis que nous nous déplaçions vers le cratère suivant. Et moi je pleurais intérieurement devant les horreurs de l'enfer au Seigneur m'écriai je dis. Quelles réalités sont ces tourments? Quand une âme arrive en enfer, il n'y a pour elle plus aucune espérance, plus aucune vie, plus aucun amour. Quelle réalité que l'enfer! Je me disais aucune issue. Cette personne va devoir brûler pour l'éternité dans ses flammes, le temps passe, dit Jésus. Nous reviendrons demain. Ami, si tu vis dans le péché, s'il te plaît repens-toi. Si tu es né de nouveau, virgule maintenant. Pratique le bien et lève-toi pour la vérité. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard et tu passeras l'éternité avec le Seigneur dans le ciel. Jésus prit à nouveau la parole et dit l'enfer a la forme d'un corps, comme celle d'un corps humain, étendu sur le dos au centre de la terre. L'enfer a la forme d'un corps gigantesque et avec de nombreuses cellules de tourment. Souviens-toi qu'il te faudra dire aux hommes que l'enfer existe vraiment. Des millions d'âmes perdues se trouvent ici, et il en arrive davantage chaque jour. Au jour du grand jugement, la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu. Ce sera la seconde mort. Chapitre 3 La jambe droite de l'enfer. Je n'ai pu ni dormir ni manger après cette nuit au cours de laquelle je me suis retrouvé en enfer. Chaque jour je revivais cette scène. Quand je fermais les yeux, je ne pouvais voir que l'enfer. Mes oreilles ne pouvaient se défaire des cris des damnés. C'était comme un programme de télévision. Je revivais inlassablement toutes les choses dont j'avais été témoin en enfer. La nuit, j'allais en enfer, et le jour je m'employais à trouver les mots exacts pour apporter cette chose effrayante au monde. Jésus m'apparut une nouvelle fois et me dit cette nuit, « Mon enfant, nous allons dans la jambe droite de l'enfer. N'aie pas peur car je t'aime et je suis avec toi. » Le visage du Seigneur était très triste. Ses yeux étaient remplis d'une grande tristesse et d'un amour profond. Bien que ceux qui étaient en enfer étaient perdus à jamais, je savais que Jésus les aimait encore et qu'il les aimerait pour l'éternité. « Mon enfant, me dit-il, Dieu notre Père a donné à chacun de nous une volonté afin que nous ayons la possibilité de choisir entre le servir ou servir Satan. Sache que Dieu n'a pas créé l'enfer pour son peuple. Satan trompe ceux qui décident de le suivre. C'est pour Satan et ses anges que l'enfer a été créé. Ce n'est aucunement ma volonté, ni celle de mon Père que quiconque périsse. Des larmes de compassion coulaient le long de ses joues lorsque je te montrerai l'enfer, continua-t-il, rappelle-toi les paroles que j'ai dites. J'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre quand il te semblera que je t'ai abandonné, ce ne sera cependant pas le cas. Certaines fois, nous serons vus par les forces sataniques et les âmes perdues, d'autres fois ce ne sera pas le cas. Ne t'inquiète pas de l'endroit où nous nous rendrons, reste en paix et n'aie pas peur de me suivre. Nous partîmes ensemble. Je le suivis, très près de lui en pleurant. Depuis des jours, je ne faisais que pleurer. Je ne pouvais pas me débarrasser de la présence de l'enfer. Il était constamment devant mes yeux. Je pleurais surtout intérieurement. Mon esprit était très triste. Nous arrivâmes dans la jambe droite de l'enfer. Regardant devant nous, je vis que nous nous trouvions sur un sentier aride, brûlé. Des hurlements déchiraient l'air, un air sale. Et la puanteur de la mort était partout. L'odeur était parfois si répugnante que j'en avais des nausées. Partout c'étaient les ténèbres, à l'exception de la lumière qui émanait de Christ et des cratères de feu qui incrustaient le paysage aussi loin qu'on pouvait distinguer. Tout à coup, des démons de toutes sortes passèrent devant nous. Des petits diables grognèrent après nous en s'écartant. Des esprits de démons de toute taille et de toute forme se parlaient entre eux. Un peu plus loin, devant nous, un gros démon était en train de donner des ordres à d'autres plus petits. Nous nous arrêtâmes pour écouter. Il y a également, me dit Jésus, une armée invisible de puissance mauvaise que nous ne voyons pas ici, tels les esprits de maladie, allait dire le gros démon au petit diable. Faites toutes sortes de mal. Brisez les foyers, détruisez les familles, séduisez les chrétiens faibles, donnez-leur de faux enseignements, trompez-les aussi souvent que possible. Vous aurez votre récompense au retour. Rappelez-vous que vous devez vous méfier particulièrement de ceux qui ont vraiment accepté Jésus comme leur sauveur, car ils ont le pouvoir de vous chasser. Allez maintenant parcourir la terre. J'en ai déjà envoyé plusieurs, là-haut, et j'en ai encore d'autres à envoyer. Souvenez-vous, nous sommes les serviteurs du prince des ténèbres et des puissances de l'air. Là-dessus, les mauvais esprits commencèrent à s'envoler vers le haut de l'enfer. Des portes, dans le haut de la jambe droite, s'ouvraient et se fermaient prestement pour les laisser sortir. D'autres également s'en allèrent par l'entonnoir que nous avions emprunté pour descendre. Je vais essayer de décrire l'aspect de ces créatures mauvaises. Celui qui parlait était très corpulent, de la taille d'un grizzly adulte. Il était de couleur marron. La tête comme celle d'une chauve-souris et les yeux enfoncés très profondément dans sa tête velue. Des bras très velus tombaient sur ses côtés et des crocs sortaient de sa face. Un autre était petit comme un singe, avec de très longs bras et des poils sur tout le corps. Son visage était minuscule avec un nez pointu. Je ne lui ai vu Dieu nulle part. Un autre encore avait une grosse tête, de grandes oreilles et une longue queue. Un autre était aussi gros qu'un cheval et avait la police. La vue de ces démons et de ces mauvais esprits, et l'odeur infecte qui émanait d'eux me donnaient des nausées. Où que je regardais, il y avait des démons et des créatures diaboliques. J'ai appris du Seigneur que les plus gros de ces démons recevaient leurs ordres directement de Satan. Nous continuâmes sur le sentier, Jésus et moi, jusqu'à un autre cratère. De partout, ce n'étaient que des cris de douleur et des gémissements d'une tristesse inimaginable. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a après demander jeudi. Nous marchâmes droit devant nous, au milieu de ces êtres méchants qui semblaient ne pas nous voir, et nous nous arrêtâmes devant une autre cellule de feu et de soufre. Dans cette cellule, il y avait la carcasse d'un homme de haute stature. Je l'entendis qui prêchait l'Évangile. Je me tournai vers Jésus, stupéfaite, dans l'espoir d'une explication, car il connaissait toujours mes pensées pendant que cet homme était sur terre. Il prêchait l'Évangile, me dit-il. Pendant un temps, il a prêché la vérité et il m'a servi. Je me demandais ce que pouvait bien faire cet homme en enfer. Il était de haute stature. Des lambeaux de vêtements étaient encore accrochés à lui. De la chair brûlée pendait de son corps et son crâne semblait flamber. Une odeur effroyable émanait de lui. Je le vis alors joindre les mains comme s'il tenait un livre, et commencer à lire dans ce soi-disant livre. À nouveau, je me souvins que Jésus avait dit « on a toutes ses facultés en enfer, et même dans ce lieu elles sont un peu plus marquées ». L'homme se mit à lire un verset de l'Écriture après l'autre, et je pensais que c'était bien. Jésus s'adressa à l'homme avec un profond amour dans la voix « reste en paix, reste tranquille ». Immédiatement, l'homme s'arrêta de parler. Il tourna lentement son regard vers Jésus. Je vis son âme à l'intérieur de son aspect de squelette. Il s'adressa au Seigneur « Seigneur, maintenant je vais prêcher la vérité à tout le monde. Maintenant je suis prêt à aller parler de ce lieu aux autres. Je sais que lorsque j'étais sur terre, je ne croyais pas que l'enfer existait et je ne croyais pas non plus à ton retour. Je prêchais ce que les gens avaient envie d'entendre et j'ai mis en péril la vérité devant les gens de mon église. Je reconnais que je n'aimais pas ceux qui étaient différents de race ou de couleur de peau, et j'en ai fait tomber plusieurs dans l'égarement loin de toi. J'avais ma propre interprétation des choses célestes bonnes et mauvaises. Je reconnais que j'en ai conduit plusieurs dans l'erreur et que je leur ai fait prendre une voie fausse et éloignée de ta sainte parole. J'ai pris l'argent du pauvre. Mais, Seigneur, laisse-moi sortir et je me conduirai bien. Je ne prendrai plus l'argent de l'Église. Je me suis déjà repenti. Je vais aimer tous les gens de race ou de couleur. Tu n'as pas seulement tordu et interprété faussement les Écritures, lui dit Jésus, mais tu as menti en disant que tu ne connaissais pas la vérité. Les plaisirs de la vie étaient plus importants pour toi que la vérité. Je t'ai visité moi-même et j'ai essayé de m'approcher de toi, mais, Tu ne voulais pas m'écouter. Tu as marché dans tes propres voies et le mal en est devenu ton maître. Tu connaissais la vérité mais tu ne voulais pas te repentir et te tourner vers moi. J'ai été présent tout le temps et je t'attendais. J'aurais voulu que tu te repentes, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant le jugement est arrêté. La pitié se lisait sur le visage de Jésus. Je savais que si cet homme avait écouté l'appel du Sauveur, il ne serait pas dans ce lieu maintenant. Ô mes amis, écoutez je vous en prie. Jésus parlait encore une fois à ce récidiviste « Tu aurais dû dire la vérité et tu aurais dû en amener plusieurs à la justice avec la parole de Dieu qui dit que tous les incroyants auront leur part dans les temps de feu et de soufre. Tu connaissais le chemin de la croix et les voies de la justice et tu savais comment prêcher la vérité. Mais Satan a rempli ton cœur de mensonges et tu es tombé dans le péché. Tu aurais dû te repentir sincèrement et non à moitié. Ma parole est la vérité. Elle ne ment pas. Maintenant il est trop tard. Trop tard. À ces mots, l'homme menaça Jésus du poing et jura contre lui. Malgré tout, Jésus s'écria « Mon Père, aie pitié de lui ». Tout tristement, Jésus et moi nous montâmes vers la cellule suivante. Le prédicateur de l'erreur, en colère, continuait encore à insulter Jésus. Comme nous marchions parmi les cellules de feu, nous pouvions voir les mains des perdus se tendre vers Jésus, et, dans des voix plaintives, le supplier d'avoir pitié d'eux. Leurs mains décharnées et leurs bras étaient d'un gris noir brûlé. Pas de chair vivante, ni sang, ni organes. Seule la mort régnait. En moi-même je pleurais. Ô terre, repens-toi. Si tu ne le fais pas, tu viendras en ce lieu. Arrête avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous arrêtâmes devant une autre cellule. Je ressentais tellement de pitié pour toutes ces âmes et tellement de tristesse que je sentis mes forces physiques s'affaiblir. J'avais du mal à me tenir debout. De gros sanglots me secouaient. Jésus a fait si mal intérieurement, dis-je. Depuis la cellule, une voix de femme s'adressa à Jésus. Elle était debout au milieu des flammes qui l'enveloppaient complètement. Ses os étaient pleins de verre et de chair décomposée. Les flammes s'activaient autour d'elle. Elle tendit les mains vers Jésus en criant « Fais-moi sortir de là. Je vais te donner mon cœur maintenant, Jésus. Je vais parler aux autres de ton pardon. Je vais témoigner pour toi, je t'en prie. « S'il te plaît, laisse-moi sortir ma parole et la vérité, » répondit Jésus. Elle déclare que tous doivent se repentir, se détourner de leurs péchés et m'inviter à entrer dans leur vie s'ils veulent échapper à l'enfer. Par mon sang, il y a un plein pardon des péchés. Je suis fidèle et juste pour pardonner à ceux qui viennent à moi. Je ne les mets pas dehors. Il se retourna, regarda la femme et dit « Si tu m'avais écouté, si tu avais voulu venir à moi, si tu avais bien voulu te repentir, « Je t'aurais pardonné Seigneur, » demanda la femme, « N'y a-t-il pas un moyen de sortir d'ici ?» Jésus lui parla avec beaucoup de douceur « Femme, il t'a été donné plusieurs opportunités de te repentir. Mais tu as endurci ton cœur. Tu ne voulais pas. Tu connaissais pourtant ma parole qui déclare que tous les fornicateurs auront leur part dans le lac de feu. » Jésus se tourna alors vers moi. Cette femme a entraîné beaucoup d'hommes dans le péché. Plusieurs foyers ont été brisés, mis en pièces à cause d'elle. Malgré tout cela, je n'ai pas cessé de l'aimer. Je suis venu à elle non pour la condamner mais pour la sauver, en envoyant plusieurs de mes serviteurs pour qu'elle se repente de ses mauvaises voies. Mais elle n'a pas voulu. Quand elle était encore jeune, je l'ai appelée. Mais elle a continué de pratiquer le mal. Elle a fait des choses très laides. J'aurais tellement voulu lui pardonner si elle s'était approchée de moi. Satan est entré en elle. Si bien qu'elle a sombré dans la haine et qu'elle ne pardonnait à personne. Elle venait à l'église uniquement pour y rencontrer des hommes et les séduire. Si elle s'était approchée de moi, ses péchés auraient été lavés par mon sang. Une partie d'elle-même avait pourtant le désir de me servir. Mais on ne peut servir Dieu et Satan à la fois. Chaque personne doit choisir qui elle décide de servir. Seigneur, implorai-je, donne-moi la force d'aller plus loin. J'étais ébranlé de la tête aux pieds devant toutes ces horreurs de l'enfer. Sois en paix, me dit Jésus, reste tranquille et aide-moi, Seigneur, cria-je. Satan ne veut pas que nous connaissions la vérité sur l'enfer. Dans aucun des cauchemars que j'ai pu faire dans ma vie, je n'ai imaginé que l'enfer puisse être aussi affreux que ça. Jésus, quand cela va-t-il se terminer mon enfant, répondit Jésus, le Père seul connaît le moment où viendra la fin. Sois en paix et reste tranquille. Une grande force vint alors sur moi, à cet instant. Jésus et moi nous marchions entre les cratères. J'avais envie d'attraper chaque personne qui se trouvait là, de l'arracher du feu et de la mettre aux pieds de Jésus. Je pleurais beaucoup intérieurement. Je pensais en moi-même, je ne voudrais jamais que mes enfants viennent dans ce lieu. Finalement, Jésus se tourna vers moi et me dit tranquillement, ma fille, nous allons rentrer chez toi maintenant. Demain soir, nous reviendrons dans cette partie de l'enfer. De retour à la maison, je pleurais et pleurais sans arrêt. Pendant la journée, je revivais l'enfer et les horreurs de ceux qui y sont prisonniers. Toute la journée, je racontais à tout le monde ce que j'avais vu en enfer. Je leur disais combien le malheur est inimaginable. Vous qui lisez ce livre, je vous en supplie, repentez-vous de vos péchés, adressez-vous à Jésus et demandez-lui de vous sauver, faites-le aujourd'hui, n'attendez pas demain, car demain ne viendra peut-être jamais. Le temps passe très vite. Mettez-vous à genoux et soyez purifiés de vos péchés. Soyez bons les uns envers les autres. Pour l'amour de Jésus, soyez pleins de bonté et pardonnez à tous. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, pardonnez-lui. Ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère, si c'est pour aller en enfer. Pardonnez comme Christ nous pardonne nos péchés. Jésus a le pouvoir de nous garder si nous avons un cœur repentant, et par son sang, il nous purifie de tout péché. Aimez vos enfants et vos voisins comme vous-même. Le Seigneur des Églises dit, « Repentez-vous et soyez sauvés. » Chapitre 4 des cratères encore plus nombreux la nuit suivante, Jésus et moi nous nous sommes rendus dans la jambe droite de l'enfer. J'ai réalisé que Jésus avait toujours autant d'amour pour les âmes perdues en enfer. J'ai ressenti son amour pour moi comme pour tous ceux qui sont sur la terre. Mon enfant, me dit-il, ce n'est pas la volonté du Père que quiconque périsse. Satan trompe beaucoup d'hommes et de femmes et ils se mettent à le suivre. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il pardonne. S'ils se sont sincèrement approchés du Père et s'ils se sont repentis, il leur accorde réellement le pardon. Une très grande tendresse se lisait sur le visage de Jésus tandis qu'il disait « Père, aie pitié d'eux ». À nouveau nous avancions parmi les cellules embrasées, et nous passions devant beaucoup de gens dans les tourments, comme je l'ai décrit plus haut. « Seigneur, Seigneur, quelle horreur !» me disais-je dit. Nous défilions devant 16 âmes l'une après l'autre. Tout au long du chemin, des mains en feu se tendaient vers Jésus. Elles n'avaient que les os à la place de la chair, une masse grisaillante et brûlée, et la chair décomposée qui pendait en lambeaux. À l'intérieur de chaque squelette, il y avait une âme telle un brouillard sale et gris, emprisonnée pour toujours. Je peux vraiment dire que c'était leur cri qu'on pouvait se rendre compte qu'elles ressentaient réellement le feu, les vers, le malheur et le désespoir. Et ces cris remplissaient mon âme d'un chagrin que je ne peux décrire. Si seulement elles avaient écouté, pensais-je, elles ne seraient pas ici. Je savais que les âmes en enfer avaient toutes leurs facultés. Elles se souviennent de tout ce qui leur a été dit et savent qu'elles sont perdues pour toujours. Pourtant, sans espoir, elles continuent de supplier Jésus pour qu'il leur fasse miséricorde. Nous nous arrêtâmes près de la cavité suivante. Elle était exactement comme les autres. À l'intérieur, il y avait une femme. Je l'ai su à sa voix. Elle suppliait Jésus de la délivrer des flammes. Jésus la regarda avec amour et lui dit « Quand tu étais sur terre, je t'ai appelé de très nombreuses fois à venir à moi. Je t'ai supplié de te mettre en règle avec moi avant qu'il ne soit trop tard. Je t'ai visité plusieurs fois au milieu de la nuit pour te dire combien je t'aimais. Je t'ai cherché avec amour, et j'ai voulu t'amener à moi par mon esprit. Tu as répondu, « Oui, Seigneur, je vais te suivre avec ta bouche, tu disais que tu m'aimais, mais cela ne venait pas du cœur. Je savais quel était l'état de ton cœur. Je t'ai souvent envoyé mes messagers pour te dire de te repentir de tes péchés et de venir à moi. Mais tu n'as pas voulu m'entendre. Je voulais que tu enseignes les autres, que tu les aides à me trouver, mais tu as préféré le monde. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'entendre, ni te repentir de tes péchés. Tu te souviens, Seigneur, dit la femme, que je venais à l'église et que j'étais aimable. J'étais membre de ton église. Je savais que tu avais un appel pour moi. Je savais que je devais obéir à cet appel à tout prix et je l'ai fait, femme, ta vie est encore remplie de mensonges et de péchés. Je t'ai appelé, mais tu n'as pas voulu m'entendre. C'est vrai, tu étais membre d'une église, mais le fait d'être membre d'une église ne conduit pas au ciel. Tes péchés étaient nombreux et tu ne t'en repentais pas. Tu en as entraîné d'autres à s'égarer loin de ma parole. Tu ne pardonnais pas aux autres quand ils te blessaient. Tu prétendais m'aimer et me servir quand tu étais en compagnie de chrétiens, mais le reste du temps, tu pratiquais le mensonge, la tromperie et le vol. Tu laissais agir les esprits de séduction et tu aimais cette double vie. Tu connaissais pourtant le droit chemin. Tu avais un double langage, poursuivit Jésus, tu parlais des frères et des sœurs en Christ en les jugeant et en pensant que tu étais plus sanctifié qu'eux, alors qu'il y avait de grands péchés dans ton cœur. Je le sais bien, tu ne voulais pas écouter mon esprit de douceur et de compassion. Tu jugeais les extérieurs d'une personne sans tenir compte du fait que plusieurs étaient des enfants dans la foi. Tu étais très dur avec eux. Oui, avec tes lèvres tu disais que tu m'aimais, mais ton cœur était éloigné de moi. Tu connaissais les voies du Seigneur et tu les comprenais. Tu t'amusais avec Dieu et Dieu connaît toutes choses. Si tu avais sincèrement servi Dieu, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Jésus se tourna vers moi. Il y en a beaucoup, dans les derniers jours, me dit-il, qui vont abandonner la foi, donner libre accès à des esprits de séduction et servir le péché. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous. Ne suivez pas leur voie. Alors que nous nous éloignions, la femme commence à jurer et à insulter Jésus. Et l'hurler de rage. Nous continuâmes à marcher. J'étais très affaibli dans mon corps. Dans la cellule suivante était un autre squelette. Je sentis l'odeur de la mort avant même d'arriver tout près. Ce squelette ressemblait aux autres. Je me demandais ce que cette âme s'y avait bien pu faire pour se perdre, sans espoir ni autre avenir que l'éternité en cet horrible lieu. Oui, l'enfer dure toute l'éternité. Quand j'entendais les pleurs des âmes en tourment, je me mettais moi aussi à pleurer. J'entendis qu'une femme était en train de parler avec Jésus, dans un autre cratère de flammes. Elle citait la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait la demander? Je écoute, me dit Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, disait la femme. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la lumière du monde. Venez à Jésus et il vous sauvera. Quand elle parlait, plusieurs âmes perdues l'écoutaient autour d'elle. Plusieurs juraient contre elle et l'insultaient. Certains lui disaient de se taire. D'autres s'écriaient: y a-t-il vraiment de l'espoir ou bien, aide-nous? Jésus, de grands cris de tristesse emplissaient l'atmosphère. Je ne comprenais pas ce qui se passait et je me demandais pourquoi cette femme prêchait l'évangile dans cet endroit. Le Seigneur connaissait mes pensées. Mon enfant, me dit-il, j'ai appelé cette femme à l'âge de 30 ans à prêcher ma parole et à être un témoin de l'évangile. J'appelle des personnes différentes dans des buts différents, pour le bon fonctionnement de mon corps. Mais si un homme ou une femme, si un garçon ou une fille ne veulent pas de mon esprit, alors je m'en éloigne. Oui, elle a répondu à mon appel pendant plusieurs années et elle a grandi dans ma connaissance. Elle a entendu ma voix et elle a fait beaucoup de bonnes choses pour moi. Elle a étudié la parole de Dieu, elle priait souvent et beaucoup de ses prières ont été exaucées. Elle a enseigné à beaucoup de personnes le chemin de la sainteté et a été fidèle à son mari dans sa maison. Les années se sont écoulées jusqu'au jour où elle a découvert que son mari avait une relation avec une autre femme. Malgré le fait qu'il lui en ait demandé pardon, elle est devenue de plus en plus amère, ne voulant ni lui pardonner, ni sauver son mariage. C'est vrai que son mari s'était très mal conduit envers elle. Il avait commis un grave péché. Mais cette femme connaissait ma parole et connaissait le pardon. Elle savait que dans toute tentation, il y a toujours un moyen de s'échapper. Son mari lui a demandé de lui pardonner, mais elle ne voulait pas. Au lieu de cela, la colère s'est enracinée en elle et a augmenté de plus en plus. Elle ne voulait pas me confier ce problème. Elle est devenue chaque jour plus amère. Elle disait en son cœur et dire que je suis là en train de servir Dieu pendant que mon mari court après une femme. « Tu trouves cela bien ?» me disait-elle. Je lui ai répondu « Non, ce n'est pas bien, mais il est venu te demander pardon et te dire qu'il ne voulait plus recommencer. » Je lui ai demandé « Ma fille, regarde en toi-même, et vois si tu n'as pas été toi-même la cause de cette situation. Non pas moi Seigneur, disait-elle. Moi je suis sainte, c'est lui le pécheur. » Elle ne voulait pas m'écouter. Le temps a passé. Elle ne voulait plus prier, ni lire la Bible. Elle était en colère, non seulement contre son mari, mais aussi contre ceux qui l'entouraient. Elle citait les saintes écritures, mais elle ne voulait pas lui pardonner. Elle ne voulait pas m'écouter. L'amertume a grandi dans son cœur et elle a commencé à préméditer le meurtre à la place de l'amour. Un jour elle a tué son mari ainsi que l'autre femme. Satan s'est alors complètement emparé d'elle et elle s'est suicidée. Je regardais cette âme perdue qui avait élevé Christ dans sa vie, puis qui avait condamné son âme pour toujours au feu et au tourment. Je l'entendis encore répondre à Jésus : « Je veux pardonner maintenant, Seigneur. Fais-moi sortir. Je vais t'obéir maintenant. » Tu vois, Seigneur, je prêche ta parole. Dans une heure, des démons vont venir me prendre pour me tourmenter encore plus. Ils vont me torturer parce que j'ai prêché ta parole et mes tourments seront pires. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie, laisse-moi sortir. Je pleurais pour cette femme qui était dans sa cellule. Je demandais au Seigneur de me garder de toute amertume dans mon cœur. Seigneur Jésus, ne permets pas à la haine d'entrer dans mon cœur. Viens, avançons, me dit-il. Dans le trou suivant, il y avait l'âme d'un homme revêtu de son squelette qui criait à Jésus en pleurant. Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi je suis ici. Reste en paix, calme-toi, lui dit Jésus, tu sais très bien pourquoi tu es ici. Laisse-moi m'en aller et je serai bon, supplia-t-il. Même en enfer, tu mens encore, lui dit le Seigneur. Jésus se tourna vers moi. Cet homme avait 23 ans quand il est arrivé ici. Il ne voulait pas entendre l'Évangile. Il a entendu plusieurs fois ma parole. Il venait souvent dans ma maison. Je l'ai invité, par mon esprit, à recevoir le salut, mais il a préféré le monde et ses plaisirs. Il aimait boire. Il ne voulait pas avoir affaire avec mon appel. Il était né dans l'Église mais ne voulait pas se confier en moi. Un jour, il m'a dit « Je te donnerai ma vie, un jour, Jésus, mais ce jour n'est jamais venu. » Une nuit, après une soirée de fête, il a eu un accident de voiture et il a été tué sur le coup. Satan l'avait trompé jusqu'à la fin. Il n'avait pas voulu écouter mon appel. D'autres personnes ont également trouvé la mort dans cet accident. Le travail de Satan est de tuer, de voler et de détruire. Si seulement ce jeune homme avait écouté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse. Satan voulait l'âme de cet homme et il l'a détruite en se servant de l'insouciance, du péché et de la boisson. Beaucoup de foyers et de vies sont détruites chaque année à cause de l'alcool. Si seulement les hommes pouvaient réaliser que la luxure et les plaisirs du monde ne durent qu'une saison. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous délivrera de l'esclavage de la boisson. Criez à Jésus, il vous entendra et vous aidera. Il sera votre ami. Rappelez-vous qu'il vous aime et qu'il a le pouvoir de pardonner vos péchés. Quant à vous, chrétiens qui êtes mariés, Jésus vous donne un avertissement : ne commettez pas d'adultère. La convoitise d'une personne du sexe opposé, même si vous ne commettez pas d'adultère avec elle, peut être un adultère dans votre cœur. Jeunes gens, gardez-vous de la drogue et du sexe. Si vous avez péché, Dieu vous pardonnera si vous faites appel à lui pendant qu'il est encore temps. Cherchez à rencontrer des chrétiens adultes, forts dans l'esprit et demandez-leur si vous pouvez leur confier vos problèmes. Vous serez tellement heureux d'avoir pris le temps de le faire dans ce monde-ci, avant qu'il ne soit trop tard. Satan vient comme un ange de lumière pour tromper l'humanité. Pas étonnant que les péchés du monde aient induit en tentation ce jeune homme, bien qu'il ait connu la sainte parole de Dieu. Encore une petite soirée, pensait-il. Jésus comprendra bien mais la mort est sans pitié. Il était trop tard. Je regardais l'âme de ce jeune homme et je pensais à mon propre enfant qui allait bientôt avoir 23 ans. Ô Seigneur, puisse-t-il te servir? Je sais que plusieurs d'entre vous qui lisez ce livre, vous avez de la famille et peut-être même des enfants que vous n'aimeriez pas voir en enfer. Parlez-leur de Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Dites-leur de se repentir de leurs péchés. Dites-leur que Dieu leur pardonnera et les sanctifiera. Pendant des jours, j'étais obsédé par les pleurs de ce jeune homme. Je n'oublierai jamais les cris de ses amers regrets. Je me souvenais de sa chair en lambeaux qui se consumait dans les flammes. Je ne pourrai jamais oublier toute cette chair en décomposition, l'odeur de la mort, les cavités vides à l'emplacement des yeux, les aimes grisâtres et les vers qui grouillaient sur leurs os. Ce jeune homme tendait ses bras vers Jésus plaintivement, tandis que nous avancions vers un autre cratère. Seigneur, priai-je, donne-moi la force d'avancer. J'entendis la voix d'une femme qui pleurait désespérément. Les cris de la mort étaient partout. Nous arrivâmes au trou dans lequel se trouvait cette femme. Elle implorait Jésus de toute son âme afin qu'il la sorte de là. Seigneur, dit-elle, ne suis-je pas restée suffisamment longtemps dans ce lieu? Ma douleur est plus que je ne peux supporter. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi sortir. Des sanglots secouaient sa carcasse et il y avait une grande peine dans sa voix. Je savais qu'elle souffrait beaucoup. Je demandais Jésus, n'y a-t-il vraiment rien à faire? Alors Jésus s'adressa à cette femme. Quand tu étais sur la terre, je t'ai appelé, et appelé encore pour que tu viennes à moi. Je t'ai supplié de te mettre en règle avec moi, de pardonner aux autres et de te garder du péché. Je t'ai même visité pendant la nuit et attiré par mon esprit plusieurs fois. Avec tes lèvres, tu disais que tu m'aimais, mais ton cœur était éloigné de moi. Ne savais-tu pas que rien n'est caché devant Dieu? Tu peux tromper les gens, mais moi tu ne peux pas me tromper. J'ai encore envoyé des personnes vers toi pour te dire de te repentir. Mais tu ne voulais pas écouter, tu n'as voulu ni entendre ni voir et tu t'es fâché en les renvoyant. Je t'ai placé là où tu pouvais entendre ma parole, mais tu n'as pas voulu me donner ton cœur. Tu n'avais aucun regret, ni aucune honte de ta manière d'agir. Tu endurcissais ton cœur et tu me tournais le dos. Maintenant, tu es perdu pour toujours. Tu aurais dû m'écouter. À ces mots, elle se tourna vers Jésus et commença à jurer contre Dieu et à l'insulter. Je sentis la présence des mauvais esprits et je sus que c'était eux qui juraient et insultaient. Combien c'est triste d'être perdu pour l'éternité en enfer. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jésus dit : le monde et tout ce qu'il renferme passera, mais mes paroles ne passeront point. Chapitre 5 : Le tunnel de la peur. J'essayais de me remémorer les messages que j'avais entendus prêcher sur l'enfer, mais je n'avais encore jamais entendu de choses aussi terribles que celles que le Seigneur m'avait montrées là. L'enfer m'a paru infiniment plus horrible que ce que quiconque pourrait imaginer. J'ai été très éprouvé de réaliser que les âmes qui se trouvaient dans les tourments y seraient pour toute l'éternité, car il n'y a aucun moyen de sortir de l'enfer. Je suis donc déterminé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour sauver les âmes de ces horreurs. Il faut que je prêche l'évangile à tous ceux que je rencontre, car l'enfer est un endroit effrayant et ce que je dis est la vérité. Réalisez-vous bien ce que je suis en train de dire? Si les pécheurs ne se repentent pas et s'ils ne croient pas à l'évangile, ils seront d'une manière absolument certaine emmenés dans ce lieu. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et demandez-lui de vous sauver de vos péchés. Lisez l'évangile de Jean par exemple, les chapitres 3 et 14, et ensuite, je vous en supplie, lisez ce livre de la première à la dernière page. Vous pourrez alors mieux comprendre les choses de l'enfer et du ciel. Quand vous lisez, priez pour que Jésus entre dans votre cœur et vous lave de vos péchés, avant qu'il ne soit trop tard. Jésus, donne-moi le courage de continuer, priai-je dit. Tandis que Jésus me conduisait, je marchais serré tout contre lui. J'étais très angoissé à cause des choses effrayantes que j'avais vues. Je me demandais intérieurement si les gens allaient me croire. Je jetai un coup d'œil à ma gauche, à ma droite et derrière moi. Il y avait des cellules de feu à perte de vue. J'étais encerclé par les flammes et par les âmes qui se consumaient. Devant des horreurs pareilles, je craquais en hurlant. Ces réalités étaient vraiment plus que je pouvais supporter. Ô terre, repens-toi, m'écriai-je dit. Des sanglots énormes me secouaient tandis que je marchais à côté de Jésus. Je me demandais où il voulait me conduire. Je me posais aussi des questions sur ce que faisait ma famille, sur mes amis. Combien je les aimais, je me souvenais que j'avais tellement péché avant de revenir à Jésus et je remerciais Dieu de m'avoir ramené à lui avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons maintenant nous introduire dans un tunnel qui va nous emmener vers le ventre de l'enfer, me dit Jésus. L'enfer ressemble à un corps humain étendu au centre de la terre. Le corps est couché sur le dos, avec les deux bras et les deux jambes écartés. De même, enfer a son propre corps de péché et de mort. Et comme le corps de Christ s'édifie jour après jour, de même point. De chaque côté du chemin qui nous menait au tunnel, se succédaient des cratères, des cellules en flammes, d'où sortaient les cris et les gémissements des condamnés. Plusieurs d'entre eux criaient à Jésus à notre passage. D'autres essayaient de s'extirper de leurs cellules en feu dans le but d'atteindre Jésus, mais ils n'y parvenaient pas. Trop tard, mon cœur saignait. Pendant notre marche, la tristesse se lisait de façon permanente sur le visage de Jésus. Je me souvins qu'en observant les cellules de feu, cela me faisait penser aux nombreuses fois où nous avions fait un barbecue en plein air. Les braises rouges et brûlantes couvaient pendant des heures. C'était exactement pareil dans les cellules. J'étais reconnaissant d'arriver enfin au tunnel, car je me disais que ce ne serait pas aussi affreux que ces cratères, que ces cellules. Mais je me trompais complètement. Dès que nous eûmes pénétré à l'intérieur, je commençais à voir de gros serpents, d'énormes rats et de nombreux esprits mauvais se sauver en courant, hors de la présence du Seigneur. Les serpents sifflaient contre nous. Les rats poussaient des cris aigus. Il y avait toutes sortes de bruits autour de nous. Jésus était la seule lumière visible dans ce tunnel. Je me serrais contre lui du mieux que je le pouvais. De petits démons et des diables étaient accrochés de partout aux parois de la caverne et se promenaient dans tous les recoins de ce tunnel. Par la suite, j'ai découvert que ces mauvais esprits se rendaient sur la terre pour y accomplir les ordres de Satan. S'apercevant de mes craintes face à ces ténèbres, à cette moiteur et à cette saleté, Jésus me dit : n'aie pas peur, nous arrivons bientôt au bout du tunnel. Il faut que je te montre ces choses. Viens, suis-moi. Des serpents géants rampaient devant nous. Certains d'entre eux mesuraient environ 10 mètres de long et 1 mètre de diamètre. Des odeurs repoussantes flottaient en forte concentration dans l'air. Les esprits méchants étaient partout. Jésus me dit : Nous arrivons bientôt dans le ventre de l'enfer. Cette partie mesure 27 km de haut et 5 km de diamètre. Jésus m'en a donné les dimensions exactes. Je vais essayer de faire de mon mieux pour décrire ce que j'ai vu et entendu. Je veux le faire pour la gloire du Père, pour la gloire du Fils et pour la gloire du Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit faite. Je sais que Jésus m'a montré toutes ces choses afin que j'avertisse les hommes et les femmes de ce monde, afin qu'à tout prix ils puissent éviter l'enfer. Chers amis, si vous lisez ce livre et que vous ne connaissez pas Jésus, arrêtez-vous tout de suite. Repentez-vous de vos péchés et invitez Jésus à devenir votre Sauveur. Chapitre 6 : Les activités de l'enfer. En face de nous, je pouvais distinguer une faible lumière jaune. Jésus et moi nous venions de sortir du tunnel de la peur, et nous montâmes jusque sur une corniche sale et poussiéreuse qui offrait une vue panoramique sur le ventre de l'enfer. Aussi loin que l'on pouvait voir, une multitude d'activités se déroulait en ce lieu. Nous nous y arrêtâmes et Jésus prit la parole : Je vais te faire parcourir le ventre de l'enfer et te révéler plusieurs choses. Viens. Suis-moi. Nous reprîmes alors tous deux notre marche plus loin, me dit Jésus, il y a des choses terribles. Elles ne sont pas inventées et ne sont pas issues de l'imagination. Ce sont des réalités, bien au contraire. Sois-en assuré. Tu pourras dire à tes lecteurs que les puissances démoniaques sont des réalités. Dis-leur également que Satan existe vraiment, ainsi que les puissances des ténèbres. Mais dis-leur aussi de ne pas désespérer. Car si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'écouterai des cieux et je le guérirai, lui et son pays. Aussi vrai que le ciel est une réalité, l'enfer est aussi une réalité. Dieu veut que vous ayez cette connaissance de l'enfer, mais il veut aussi vous empêcher de rejoindre cet endroit. Dieu veut que vous sachiez qu'un chemin existe pour vous sauver, c'est Jésus-Christ le Sauveur de votre âme. Souvenez-vous que tous ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau seront sauvés, l'agneau c'est Jésus. Nous nous approchâmes du premier lieu d'activité de l'enfer. C'était sur le côté droit de la corniche, sur une petite colline, dans un recoin sombre de ce ventre de l'enfer. Je me remémorai les paroles du Seigneur. Il m'avait dit par moments : « Il te semblera que je t'aurai abandonné, mais ce ne sera pas le cas. Souviens-toi que j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Certaines fois, les esprits et les âmes perdues ne nous verront même pas. Elles ne se rendront pas du tout compte de notre présence. N'aie pas peur, ce que tu verras est vrai. Ces choses se produisent maintenant, et elles se poursuivront jusqu'à ce que la mort et l'enfer soient jetés dans les temps de feu. Lecteur, assurez-vous que votre nom soit bien inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Devant nous, je pouvais entendre la voix et les plaintes d'une âme en proie au tourment. Nous grimpâmes sur la petite colline et nous regardâmes autour de nous. Une lumière éclaira l'endroit et je pus ainsi mieux voir. Des cris comme jamais vous n'auriez pu imaginer traverser ce lieu. C'était les cris d'un homme, écoute bien, dit Jésus. Tout ce que tu vas voir et entendre est bien réel. Prenez garde, prédicateur de l'Évangile, car ces choses sont la vérité. Réveillez vos chrétiens, évangélistes, prédicateurs et enseignants de la parole, vous tous qui avez été appelés à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Si vous prêchez, repentez-vous, sinon vous périrez pareillement. Nous nous avançâmes jusqu'à nous trouver à moins de 5 mètres de l'endroit où se déroulait cette activité. Je vis de petites silhouettes en vêtements sombres qui marchaient autour de ce qui semblait une sorte de caisse. En observant mieux, je vis que la caisse en question n'était autre qu'un cercueil et que les silhouettes qui tournaient autour étaient des démons. Oui, c'était bien un cercueil, entouré de 12 démons et tandis qu'ils marchaient autour, ils annonnaient des sortes de chants en ricanant. Chacun d'eux tenait une lance aiguisée qu'il enfonçait hardiment à travers le cercueil par de petites ouvertures qui étaient faites tout autour. Une atmosphère de terreur régnait là et je me mis à trembler. Jésus me dit alors : Saucis mon enfant, il y a beaucoup d'âmes en tourment à cet endroit. Et les tourments sont de types différents selon les âmes. La punition est plus grande pour ceux qui ont prêché l'Évangile et sont retournés ensuite dans le péché, que pour ceux qui n'ont pas obéi à l'appel de Dieu pour leur vie. J'entendis un cri si désespéré qu'il remplit mon propre cœur de désespoir. Quelqu'un hurlait : Plus d'espoir. Plus d'espoir, les pleurs provenaient de l'intérieur du cercueil et c'était des gémissements de regret qui ne finissaient plus. C'est affreux, dit : Je viens, dit Jésus, approchons-nous. Il s'avança jusqu'au cercueil et se pencha au-dessus pour regarder à l'intérieur. Je le suivis et je fis de même. Apparemment, les démons ne pouvaient pas nous voir. Une âme grisâtre occupait l'intérieur du cercueil. C'était celle d'un homme. Tandis que je regardais, les démons se mirent à enfoncer leurs lances dans l'âme de l'homme qui était étendu dans le cercueil. Je n'oublierai jamais les souffrances de cette âme. Je criai à Jésus: fais-le sortir, Seigneur, fais-le sortir. La douleur de cette âme était quelque chose de terrible. Si seulement il avait été possible de la libérer. J'attrapai la main de Jésus et le suppliai de faire sortir l'homme du cercueil. Reste en paix, mon enfant, calme-toi, me dit Jésus. Au son de la voix de Jésus, l'homme nous vit. Il implora alors le Seigneur: Seigneur, Seigneur, laisse-moi sortir, aie pitié de moi. Dans le cercueil c'était une masse ensanglantée. Devant mes yeux se trouvait une âme et dans cette âme un cœur humain. Du sang jaillissait de ce cœur. Les coups de lance qui s'enfonçaient transperçaient réellement son cœur. Seigneur, reprit l'homme, je te servirai maintenant. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Je réalisais que cet homme sentait cruellement chaque coup de lance qui le transperçait. Jésus me dit: il est tourmenté ainsi jour et nuit. Il a été placé ici par Satan et c'est Satan qui le torture. L'homme s'écria de nouveau: Seigneur, je prêcherai le vrai évangile. Je parlerai du péché et de l'enfer. Mais je t'en prie, fais-moi sortir. Cet homme, me dit Jésus, était un prédicateur de la parole de Dieu. Il fut un temps où il me servait de tout son cœur et conduisait les personnes au salut. Certains de ceux qui se sont tournés vers moi par son moyen me servent encore aujourd'hui, des années après. Mais les plaisirs de la chair et la tentation des richesses l'ont égaré. Il a permis à Satan de dominer sur sa vie. Il avait une grande église, une belle voiture et de gros revenus. Il a commencé à prendre l'argent des offrandes et à enseigner des erreurs. Il a prêché des demi-vérités et n'a pas voulu me laisser le corriger. J'ai envoyé mes messagers vers lui pour lui dire de se repentir et de prêcher la vérité, mais il a préféré les plaisirs de cette vie à la vie de Dieu. Il savait très bien qu'il ne fallait pas enseigner ou prêcher une autre doctrine que la vérité révélée dans la Bible. Mais avant de mourir, il est allé jusqu'à déclarer que le baptême du Saint-Esprit était un mensonge et que ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit sont des hypocrites. Il disait qu'un ivrogne pouvait très bien aller au ciel sans repentance, car Dieu n'a pas l'intention d'envoyer quiconque en enfer parce qu'il est trop bon pour cela. Il a égaré beaucoup de braves gens loin de la grâce du Seigneur. Il prétendait même qu'il n'avait pas besoin de moi, car il était lui-même comme Dieu. Il est allé si loin qu'il a même enseigné dans des séminaires cette fausse doctrine. Il a foulé aux pieds ma sainte parole. Mais je l'aime toujours. Mon enfant, mieux vaut ne jamais m'avoir connu, que m'avoir connu et être rétrograde dans mon service. Si seulement il avait voulu t'écouter, Seigneur, m'écriai je dis. Si seulement il avait pris soin de son âme et de celle des autres, il ne m'a pas écouté. Quand j'appelais, il ne voulait pas m'entendre. Il aimait la vie facile. Il n'a pas voulu revenir à moi. Un jour, il a été tué et il est arrivé directement en enfer. Maintenant Satan le tourmente pour avoir, pendant un temps, prêché ma parole et sauvé des âmes. C'est cela son tourment. Les démons continuaient de tourner autour du cercueil. Le cœur de l'homme battait et du vrai sang coulait. Jamais je ne pourrai oublier ses cris de désespoir et de douleur. Jésus regardait l'homme dans le cercueil avec une grande compassion. Il dit: le sang de nombreuses âmes perdues est sur les mains de cet homme. Plusieurs d'entre elles se trouvent ici dans les tourments, en ce moment même. Le cœur brisé, Jésus et moi nous avançâmes plus loin. Au moment où nous le quittâmes, un autre groupe de démons survint au-dessus du cercueil. Il mesura environ 1 mètre de haut et était vêtu de noir. Leur visage était masqué de cagoules noires. Ils venaient prendre la relève pour tourmenter cette âme. Je pensais à l'orgueil qui nous empêche de reconnaître nos erreurs et de demander pardon. Nous refusons de nous repentir et de nous humilier nous-mêmes et nous continuons comme si de rien n'était. Mais écoutez, mes amis, l'enfer est une réalité. Je vous en supplie, n'allez pas dans ce lieu. Jésus et moi nous marchâmes jusqu'à une petite clairière qui était entourée de pierres éparpillées. Il y avait des petits murs, çà et là, tout fait de cailloux et de saleté. Une lumière éclatante brilla dans cet espace qui avait la dimension d'une grande salle de danse. Mon enfant, me dit Jésus, regarde bien à présent ce que sont les œuvres de Satan. Le son d'une musique agréable se fit entendre, et au milieu de la salle de bal, sur un sol reluisant, 5 jolies danseuses se tenaient en rang et se mouvaient ensemble au son d'une musique. Quand elles dansaient, Elle riait. Et cela ressemblait à un concours de beauté, car ces femmes étaient d'une élégance étonnante. En fait, elles étaient tellement attirantes que cela semblait réel. Je me disais comment se fait-il qu'il ait des choses aussi jolies en enfer? Les vêtements que ces femmes portaient étaient luxueux et semblaient extrêmement chers. On aurait dit des princesses, sans le moindre défaut. Tout semblait si parfait. Je me demandais ce qu'elles faisaient en enfer. Elles ne semblaient ni méchantes ni souillées. Soudain, je remarquai qu'elles dansaient propulsées par un feu et que les flammes les faisaient bouger en soulevant leur corps de bas en haut. Elles riaient quand les flammes les enveloppaient. Elles n'étaient pas brûlées. Elles ne semblaient pas ressentir la moindre douleur. J'étais en train d'observer cela quand, tout à coup, la musique s'arrêta. La salle de bal devint silencieuse et la rangée de ces gracieuses danseuses s'immobilisa. Elles regardaient en direction de quelqu'un qui s'approchait. Une présence diabolique emplit le lieu. C'était un énorme démon comme je n'en avais encore pas rencontré. Je vis alors une personne très sombre, entièrement recouverte d'ombre. Elle était de dos, revêtue d'une longue robe et d'une cape sombre. À ses côtés, se trouvaient deux hommes. Ils se présentaient également à nous de dos. Je constatai qu'ils ne pouvaient pas nous voir. Regarde, dit Jésus. Je compris que la présence diabolique était Satan, car à ce moment-là les jolies femmes se prosternèrent devant lui en scandant « Vive Satan, vive Satan !» Satan commença alors à parler avec ces mots « Mes filles, vous avez obéi à mes ordres. Vous êtes maintenant prêtes à vous rendre sur la terre pour y accomplir ma volonté. Les puissances de ténèbres vous ont été données et vous avez toutes les ressources de l'enfer derrière vous pour faire ce travail. » Satan éclata d'un rire épouvantable et dit encore maintenant, « Souvenez-vous de ma puissance. Je vais vous montrer ce qui va vous arriver si vous n'obéissez pas au doigt et à l'œil. » Satan fit des gestes avec ses bras au-dessus d'elle. C'est alors qu'elles commencèrent à le supplier. « Non Satan, s'il te plaît, nous allons obéir et faire tout ce que tu nous commandes. » Non, Satan ne nous tourmente pas. Mais Satan ne les écoutait pas. Harry, je constatai soudain que les corps gracieux de ces femmes commencèrent à virer au gris puis à se transformer en chair morte de l'enfer, ce qui, un instant plus tôt, était parfait en grâce, devint bien vite une chose répugnante de laideur. Les corps gracieux s'étaient transformés en silhouettes hideuses et morbides. Elles étaient remplies de démons et de mauvais esprits. De gros et longs serpents sortaient de leurs estomacs en se tortillant autour d'elles. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Demandai je dis. Il ne me donna aucune réponse. Redonne-nous nos corps, Satan, criait-elle. Nous allons t'obéir. Des ricanements surgirent de nouveau tandis que Satan, d'un geste du bras, retransforma les silhouettes hideuses en corps féminin gracieux. Écoutez-moi et obéissez-moi, leur dit Satan. Faites tout ce que je vous dirai et, dans ce cas, vous pourrez garder ces jolis corps. Maintenant, attention, je vais vous montrer les endroits dans lesquels vous devrez accomplir mes œuvres de malédiction. À ces mots, l'homme qui se tenait à gauche de Satan étendit le bras et une lumière blanche apparut sur l'un des murs. Sur le mur il y avait gens tout à fait normaux. Trompez-en beaucoup et détournez-les loin de Dieu aussi souvent que vous le pouvez. Je vais vous surveiller et connaîtrez vos moindres gestes. Faites attention à ne pas vous laisser dévoiler, sinon je m'occuperai de vous. Satan étendit le bras en direction de l'écran de cinéma, et des scènes se mirent à bouger. On vit apparaître une rue d'une ville, un nightclub, un entrepôt, une boulangerie, un grand magasin, une banque, une cérémonie de mariage, une vente de charité, un hôtel de ville. Tous ces endroits étaient des lieux tout à fait normaux, habituels, et ils défilaient sur l'écran. Vous devez tromper beaucoup de gens et les faire chuter pour qu'ils s'éloignent de la vérité. Vous parcourrez la terre en accomplissant mon travail, et vous reviendrez me faire des rapports. Si vous avez besoin d'aide, je vous enverrai le nécessaire. Votre mission c'est de m'amener des âmes. Vous pouvez les piéger par la sorcellerie, les fausses religions et les sectes. Vous pouvez conduire les chrétiens faibles dans le péché de la chair. Vous pouvez implanter les semences du doute sur la vérité de la parole de Dieu. Conduisez des hommes et des femmes loin de l'évangile de Jésus-Christ et détruisez-les si vous le pouvez. Une petite table fut apportée à Satan avec des feuilles de papier. Il saisit l'un de ces papiers et commença à lire plusieurs choses à ces femmes. Je comprenais certaines de ces choses, mais d'autres, non. Emparez-vous d'une âme par semaine et travaillez autour de cette âme. Vous avez 3 semaines pour corrompre cette âme, puis vous devrez me faire un rapport. Vous ne manquerez de rien. Des richesses considérables sont à votre disposition. Travaillez dur et je vous récompenserai. Si vous désobéissez, je ferai en sorte que tout le monde découvre la vérité sur vous. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de vous transformer en toutes les formes que vous voulez. Je vous enverrai tout ce dont vous aurez besoin pour réussir. Maintenant, allez faites mon travail et revenez dans un mois. Je gagnerai contre Dieu. Satan cria en brandissant son bras de nouveau, et les jolies femmes commencèrent à remonter vers la terre. J'observai qu'il ne restait plus que du feu à l'endroit où les femmes s'étaient tenues. Je vis Satan dire aux deux hommes qui étaient avec lui regarder et il pointait son doigt sur l'écran de cinéma. Je et Dieu disait-il. Elles vont faire du bon travail pour moi là sur l'écran. On voyait les jolies femmes arriver dans les villes, les magasins, les églises et les bars pour accomplir leurs œuvres diaboliques. Elles étaient des esprits de séduction, des démons de l'enfer libérés sur la terre, mais les gens ne le savaient pas. Les pouvoirs des démons sont vrais, me dit jeudi. Ils sont lâchés sur la terre pour tromper tous ceux qu'ils peuvent tromper. Ils trichent, ils mentent, ils dérobent dans le but de faire des disciples pour Satan. Le film qui s'était déroulé sur l'écran se termina, et je vis Satan et les deux hommes qui l'accompagnaient disparaître avec lui dans un nuage de fumée. Alors Jésus me montra une horloge géante, et tirèrent toute la surface du globe, et j'entendis son tic-tac. L'aiguille des heures se trouvait presque sur la position de minuit, et l'aiguille des minutes fit un tour pour s'arrêter à minuit moins trois. En douceur l'aiguille des minutes rejoignit celle des heures, puis, à ce moment-là, le tic-tac commença à se faire entendre de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il semble remplir la terre entière. Dieu parla comme le son d'une trompette. Sa voix ressemblait au bruit de grande eau. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez prêts, car au moment où vous n'y penserez pas, je reviendrai. J'entends le battement de l'horloge. Il est minuit. L'époux vient à la rencontre de son épouse. Êtes-vous prêts pour le retour de Christ, mes amis, ou bien n'était-ce-vous comme ceux qui disent pas aujourd'hui Seigneur, voulez-vous venir à lui être sauvé? Voulez-vous lui donner votre cœur aujourd'hui? Souvenez-vous que Jésus peut et veut vous sauver du malin, si vous faites appel à lui aujourd'hui et si vous vous repentez. Priez pour votre famille et pour vos bien-aimés afin qu'ils viennent à Christ avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez ce que Jésus dit : je te protégerai, je te garderai dans toutes tes voies et je te sauverai. Je sauverai ta famille. Viens à moi aujourd'hui. Dans les larmes, je prie pour que vous tous qui lisez ce livre, vous réalisiez la vérité avant qu'il ne soit trop tard. L'enfer, c'est pour l'éternité. Je fais de mon mieux pour vous révéler ce que j'ai vu et entendu. Je sais que ces choses sont vraies. Je prie pour que vous vous repentiez à la lecture de ce livre et que vous acceptiez Jésus comme votre sauveur personnel. Rentrons maintenant. Nous reviendrons demain, me dit alors le Seigneur. Chapitre 7. Le ventre de l'enfer. La nuit suivante, Jésus et moi nous retournâmes dans l'enfer. Nous entrâmes tout d'abord dans un immense espace. Aussi loin que je pouvais regarder, je voyais des activités diaboliques de partout. Un grand nombre d'entre elles se déroulaient autour de nous. À seulement 3 mètres de l'endroit où nous nous trouvions, j'eus l'impression qu'il se passait des choses particulières, surtout à cause des qu'ils s'activaient là à cet endroit et tout autour. La scène qui se déroulait ressemblait à un film d'épouvante. À perte de vue, il y avait des âmes en tourment, et le diable avec ses anges accomplissait leurs œuvres. La semi-obscurité laissait partout échapper des gémissements d'agonie et de désespoir. Mon enfant, me dit Jésus, Satan est à la fois celui qui trompe les hommes sur la terre et celui qui tourmente les âmes en enfer. La plupart des pouvoirs démoniaques dont tu es ici témoin sont également répandus en leur temps sur la terre, pour blesser, pour affliger et pour tromper. Je vais te montrer des choses qui jamais encore n'ont été vues avec autant de détails, certaines choses que tu verras se passent dans le présent, mais d'autres concerneront les temps à venir. Je regardais à nouveau devant moi. Le sol était éclairé d'une lueur brune. Sans un souffle de vie, ni herbe, ni verdure d'aucune sorte. Tout était mort ou en train de mourir. Certains endroits étaient froids et humides, tandis que d'autres étaient chauds et secs. Partout on sentait cette odeur putride de brûlé et de chair en décomposition, mêlée à des odeurs de viande pourrie, de poubelle et de moisie. Satan se sert de toutes sortes de pièges pour tromper le peuple de Dieu, me dit Jésus. Au cours de nos différents voyages en enfer, je te montrerai un grand nombre des ruses qu'utilise le diable. Nous avions seulement fait quelques mètres lorsque j'aperçus une chose sombre, noire, se dessiner de façon inquiétante devant nous. Cela semblait se mouvoir de bas en haut, se contracter et se gonfler, et chaque fois que cela bougeait, cela dégageait une odeur fétide épouvantable, une odeur infecte, pire que les précédentes qui remplissaient l'atmosphère de l'enfer. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai vu, le mieux possible. Tandis que la chose énorme et noire continuait de se contracter en expulsant ces odeurs immondes, Je remarquai quelque chose qui ressemblait à des cornes, de couleur sobre, et qu'il sortait de cette chose pour se diriger vers le haut, sur la terre. Je m'aperçus que c'était un énorme cœur noir et qu'il y avait plusieurs entrées. Un affreux pressentiment me saisit. Connaissant mes pensées, Jésus me dit « N'aie pas peur. Ceci est le cœur de l'enfer. Nous irons l'explorer plus tard. Mais pour l'instant nous allons nous rendre dans la prison. » La prison de l'enfer était constituée de cellules disposées en cercle sur une hauteur de 27 km. Je levai les yeux et je vis qu'il y avait un renfoncement sombre creusé dans les parois, entre les cellules et le fond du ventre de l'enfer. La corniche se présentait comme un chemin de ronde qui longeait les cellules et qui offrait une vue générale du centre de l'enfer. Ces choses sont véritables, me dit Jésus. La mort et l'enfer seront un jour jetés dans le lac de feu. En attendant ce jour, l'enfer continuera de grandir et d'entasser des âmes pécheresses afin de les tourmenter et les faire souffrir. J'ai donné ma vie pour que vous n'ayez pas à venir dans ce lieu. Je savais que ces choses horribles étaient une réalité, mais la miséricorde de mon Père est juste et véritable. Si vous le laissez agir, il vous pardonnera. Criez à lui, en mon nom, aujourd'hui même. Chapitre 8 Les cellules de l'enfer. Nous étions donc, Jésus et moi, sur une corniche du premier étage des cellules. La corniche mesurait environ 1,30 m de large. Je levai les yeux. Aussi haut que je pouvais voir, il y avait d'autres corniches superposées comme des balcons, autour de ce qui ressemblait à un puits géant. Derrière ces corniches ou chemins de ronde, il y avait des cellules qui avaient été creusées dans la terre. Ces cellules, comme celles d'une prison, étaient disposées en rond. Une soixantaine de centimètres de crasse les séparait les unes des autres. Jésus me dit cette prison a environ 27 km de hauteur, à partir du fond du puits de l'enfer. Dans ce lieu, sont emprisonnées de nombreuses âmes qui ont pratiqué la sorcellerie et l'occultisme. Certaines ont été des sorciers, des médiums, des trafiquants de drogue, des adorateurs d'idoles, ainsi que des personnes mauvaises avec des esprits familiers. Ce sont les âmes qui ont commis les pires abominations à l'égard de Dieu. Plusieurs d'entre elles se trouvent ici depuis des centaines d'années. Ce sont celles qui ne se sont pas repenties, qui ont trompé les gens et les ont détournées de Dieu. Ces âmes ont commis de grandes iniquités contre le Seigneur et son peuple. Le mal et le péché étaient leur amour et leur passion. Tandis que je suivais le Seigneur le long du chemin de ronde, je jetais un coup d'œil en direction du fond du puits où se déroulaient d'innombrables activités. Une faible lueur éclairait le centre en permanence et je pouvais discerner les mouvements de nombreuses silhouettes. Au-dessus de nous, à perte de vue, il y avait des cellules. Je pensais que les tourments des âmes dans ces prisons ne pouvaient pas être pires que ceux des âmes qui se trouvaient dans les cratères de feu. Tout autour de nous, on pouvait entendre les cris, les plaintes et les gémissements des condamnés enfermés dans ces cellules. Je me sentis devenir malade et une grande tristesse remplit mon cœur. Jésus me dit « Je ne t'ai pas laissé entendre ces cris jusqu'à maintenant, mon enfant, mais à partir de maintenant, je vais te montrer comment Satan est venu pour tromper, tuer et détruire. » Ici en enfer, il y a différents tourments correspondant aux différentes âmes. Satan leur administre ce supplice jusqu'au jour du jugement où la mort et l'enfer seront jetés dans l'étang de feu. D'ailleurs, un lac de feu passe à travers l'enfer de temps en temps. Comme nous avancions le long de la corniche, des bruits s'amplifièrent puissamment. De grands cris surgirent depuis l'intérieur de cellules. Alors que je marchais serré contre Jésus, il s'arrêta en face de la troisième cellule. Une lumière forte éclairait l'intérieur où il y avait une vieille dame assise sur un rocking chair. Tout en se balançant, elle criait à se fendre le cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été choqué de constater que cette femme était vraiment une personne avec un corps. La cellule était complètement vide, à l'exception de cette femme sur sa chaise à bascule. Les murs étaient construits avec de la terre glaise et de la saleté, coulée dans la terre. La porte d'entrée occupait tout le devant de la cellule. Elle était faite de métal noir avec des barreaux de fer et une serrure. Du fait de l'écartement important des barreaux, nous avions, Jésus et moi, une vue presque complète de l'intérieur de la cellule. La vieille dame se balançait d'avant en arrière et des larmes coulaient le long de ses joues. Je voyais, à son expression d'agonie, qu'elle était dans une profonde peine et qu'elle souffrait un grand tourment intérieur. Je me demandais ce qu'elle avait pu faire pour mériter cet emprisonnement. Tout à coup, là devant mes yeux, elle commença à se métamorphoser. Elle passa de la forme d'une vieille dame à celle d'un vieux monsieur, puis à celle d'une femme d'âge moyen. Enfin, elle redevient la vieille femme qu'elle était au début. Je me demandais comment une chose pareille était possible. Quand elle aperçut Jésus, elle s'écria : Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi sortir de ce lieu de tourment. Elle se pencha en avant, le plus loin possible, pour essayer d'atteindre Jésus, mais elle n'y parvint pas. La métamorphose continua, même ses vêtements changeaient. Ainsi elle s'habilla en homme, puis en jeune fille, en femme d'âge moyen et elle finit en vêtements de vieille dame. Toutes ces transformations ne semblaient prendre que quelques minutes. Je demandai à Jésus pourquoi, Seigneur ? À nouveau elle s'écria haut, Seigneur, fais-moi sortir d'ici avant qu'il revienne. Elle était alors debout, sur l'avant de sa cellule, agrippant les barreaux en serrant les poings. Elle disait : Je sais que ton amour est vrai. Laisse-moi m'en aller. Alors que la femme criait de terreur, je vis que quelque chose commençait à déchirer la chair de son corps. Elle n'est pas ce qu'elle semble être en apparence, me dit le Seigneur. La femme se rassit dans la chaise et commença à se balancer, mais cette fois, c'était un squelette qui se trouvait assis dans le rocking chair. Un squelette avec un brouillard crasseux à l'intérieur. Quelques minutes plus tôt, elle avait un corps, elle était habillée, et maintenant elle n'était plus qu'un tas d'os noir, brûlé, avec des cavités vides à la place des yeux. L'âme de cette femme gémissait et criait sa repentance à Jésus, mais il était trop tard auparavant, me dit Jésus, sur la terre cette femme était une sorcière et une adoratrice de Satan. Non seulement elle pratiquait la sorcellerie, mais elle l'enseignait à d'autres. Quand elle était enfant, les membres de sa famille faisaient de la magie noire. Ils préféraient les ténèbres à la lumière. Plusieurs fois je l'ai appelée à la repentance, mais elle se moquait de moi en disant « Ça me plaît de servir Satan. Je veux rester à son service » Elle rejetait la vérité. Elle a détourné beaucoup de gens du Seigneur. Certains d'entre eux sont avec elle en enfer aujourd'hui. Si elle s'était repentie, je l'aurais sauvée, ainsi que plusieurs membres de sa famille, mais elle ne voulait pas écouter. Satan a trompé cette femme en lui faisant croire qu'elle recevrait un royaume comme récompense pour l'avoir servie. Il lui a raconté qu'elle ne mourrait jamais, mais qu'elle vivrait avec lui pour toujours. Elle est morte en glorifiant Satan. En arrivant ici, elle a réclamé son royaume. Satan, le père du mensonge, lui a ri au nez en lui disant « Penses-tu que je vais partager mon royaume avec toi ? Le voilà ton royaume » et il l'a enfermée dans cette cellule où elle est tourmentée jour et nuit. Sur terre elle enseignait beaucoup de sorcières qui pratiquaient la magie blanche et la magie noire. Aujourd'hui elle souffre les douleurs de l'enfer et sa chair est déchiquetée à chaque métamorphose, qu'elle n'a plus la capacité de contrôler, et elle continue indéfiniment à se transformer, passant d'une forme à l'autre, mais sa forme véritable c'est celle d'une âme souillée dans son squelette. Satan se sert d'elle pour accomplir ses desseins diaboliques. Il se moque d'elle par ses sarcasmes aussi souvent que possible, elle est amenée devant Satan qui la torture pour son plaisir. Je l'ai appelée à moi de nombreuses fois dans le but de la sauver, mais elle ne voulait pas de moi. Maintenant, elle supplie pour obtenir le pardon. Mais il est trop tard. Elle est perdue et désespérée. Je regardais cette pauvre femme, perdue pour toujours dans les souffrances et le malheur, et bien qu'elle eût été une femme méchante, mon cœur fut brisé de compassion. Puis, bientôt, et comme si Jésus et moi n'existions pas, un démon arriva devant la porte de sa cellule. Il était marron avec des ailes cassées, et il ressemblait à un gros ours de par sa taille et son aspect. Il ouvrit la porte à l'aide d'une clé, faisant beaucoup de bruit comme pour effrayer davantage la femme. Celle-ci hurlait de terreur tandis qu'il commença à l'attaquer et à la pousser hors de sa cellule. Ce démon la tourmente souvent, me dit Jésus Seigneur, demandai-je, n'y a-t-il vraiment plus rien à faire? J'avais tellement pitié d'elle, il est trop tard, répliqua Jésus, trop tard. Chapitre 9 Les horreurs de l'enfer. Je comprends pourquoi les âmes enfermées dans ces cellules du ventre de l'enfer étaient différentes de celles qui se trouvaient ailleurs dans d'autres tourments. Mais il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas comprises. Je n'ai surtout fait qu'écouter ce que Jésus m'a dit, et j'ai rédigé une narration de tout ce que j'ai pu voir ou entendre, pour la gloire de Dieu. À perte de vue, les cellules de prisonniers semblaient disposées autour d'un cercle d'une longueur infinie. Il y avait un individu par cellule. Des gémissements, des plaintes. Des soupirs et des hurlements s'échappaient des cellules tandis que nous passions devant elles. Nous avions peu avancé lorsque Jésus s'arrêta devant une autre cellule. Au moment où nous jetâmes un coup d'œil à l'intérieur, une lumière entra, celle que produisait Jésus. Je me trouvais devant une âme terriblement tourmentée. C'était une autre femme. Elle avait le teint bleuâtre. Sa chair morte et les parties qu'il se décomposait tombaient de ses os. Ses os étaient tout brûlés et d'un noir profond. Elle portait sur elle des petits morceaux de guenilles et des lambeaux de vêtements déchirés. Des vers sortaient de sa chair et de ses os. Une odeur infecte imprégnait l'endroit. Comme la femme précédente, elle aussi était assise dans une chaise à bascule. Elle tenait dans ses bras une poupée de chiffon et tout en se balançant, elle pleurait en serrant la poupée contre son cœur. De gros sanglots la secouaient et des cris plaintifs sortaient de sa cellule. Elle aussi était une servante de Satan, me dit Jésus. Elle lui a vendu son âme, et de son vivant elle pratiquait toutes sortes de mal. La sorcellerie est une réalité. Cette femme a pratiqué et enseigné la sorcellerie, et elle a entraîné beaucoup de gens dans les voies du mal. Ceux qui ont enseigné la sorcellerie reçoivent des pouvoirs particuliers en plus grand nombre, de la part de Satan, que ceux qui l'ont simplement pratiqué. Elle faisait de la divination et était médium pour son maître. Elle s'attira les faveurs de Satan pour tout le mal qu'elle commettait. Elle savait utiliser les puissances des ténèbres pour elle-même et pour Satan. Elle assistait à des messes noires et rendait des cultes à Satan. Elle était puissante pour lui. Je me demandais combien de personnes elle avait trompées pour Satan. Je regardais cette carcasse osseuse et son âme qui pleurait sur une poupée de chiffon, un morceau de chiffon sale, plutôt. La tristesse remplit mon cœur et j'ai les larmes aux yeux. Elle serrait contre elle la poupée de chiffon comme si celle-ci avait pu la secourir, ou comme pour protéger la poupée. L'odeur de la mort planait sur cet endroit. Puis je la vis commencer à se transformer en une autre femme. En premier lieu, elle fut une vieille dame des années 30, puis une jeune femme de notre temps. Une fois après l'autre, elle effectuait cette fantastique transformation là devant nos yeux. Cette femme, me dit Jésus, était l'équivalent d'un prédicateur de 7 ans. De la même façon que nous avons des prédicateurs de l'Évangile avec de vrais ministères, Satan a ses faux ministres. Ils sont la contrefaçon des vrais. Les dons sataniques sont exactement l'opposé des dons spirituels que j'accorde aux croyants. Cela, c'est la puissance des ténèbres. Les ouvriers de Satan travaillent dans l'occultisme, dans les boutiques de sorcellerie. Ils lisent dans les lignes de la main et font bien d'autres choses encore. Un médium est un puissant ouvrier satanique. Ceux qui les consultent sont trompés et se placent totalement sous l'emprise de Satan. Certains ouvriers des ténèbres ne peuvent pas s'adresser à Satan sans l'intermédiaire d'un médium qui parle pour eux. Ils font des sacrifices humains et des sacrifices d'animaux pour le diable. Beaucoup de gens vont leur âme à Satan en pensant qu'ils vivront éternellement, mais ils meurent d'une mort horrible. Satan pense encore actuellement pouvoir renverser Dieu et perturber son plan. Mais il a été vaincu à la croix. J'ai ôté les clés des mains de Satan et j'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Quand cette femme est morte, elle est allée directement en enfer. Les démons l'ont amenée devant Satan où, furieuse, elle a demandé de quel droit les démons avaient un pouvoir sur elle. Sur la terre, elle pensait que c'était elle qui avait pouvoir sur eux puisqu'elle leur donnait des ordres. Elle a réclamé aussi à Satan le royaume qui lui avait été promis. Satan a continué à lui mentir, même après sa mort. Il lui disait qu'il allait la faire revivre et l'utiliser à nouveau. Par la tromperie, elle lui avait amené beaucoup d'âmes. Aussi les mensonges de Satan lui semblèrent crédibles, mais finalement, Satan t'a ri et s'est moqué d'elle avec dédain, lui disant « Je t'ai trompé et je me suis servi de toi pendant toutes ces années. Je ne te donnerai jamais mon royaume. » Il a levé les bras vers elle et elle a ressenti comme si sa chair était arrachée de ses os. Elle a hurlé de douleur tandis qu'on a porté un gros livre noir à Satan. Il l'a ouvert et a parcouru du doigt les pages jusqu'à ce qu'il y trouve son nom. « Mais oui, » a dit Satan. Tu m'as servi sur la terre, tu m'as amené plus de 500 âmes. » Puis, il lui a menti en lui disant « Ta punition ne sera pas aussi dure que celle des autres. » Le gloussement d'un démon moqueur résonna, Satan se leva et pointa le doigt vers la femme. Un grand vent traversa soudain l'endroit et comme le mugissement d'un tonnerre sortit de lui « Ah !» fit le diable. « Prends donc ton royaume si tu le peux et une force invisible la plaqua au sol. Tu vas me servir aussi dans ce lieu. » Satan ricanait tandis que la femme essayait de se relever. Et hurlait de douleur car les démons continuaient de lui arracher la chair de ses os. Elle fut traînée jusqu'à sa cage. Elle se souvenait des promesses de Satan, il lui avait dit qu'elle aurait tout pouvoir sur la mort et la vie et elle l'avait cru. On lui avait raconté que Satan pouvait empêcher n'importe qui de la tuer. Il lui avait raconté beaucoup de mensonges et promis beaucoup de choses. « Je suis venu pour sauver tous les hommes, me dit Jésus. Je désire que tous ceux qui sont perdus se repentent et invoquent mon nom. Je voudrais qu'aucun ne périsse mais que tous aient la vie éternelle. C'est triste à dire, mais la plupart ne se repentiront pas de leurs péchés avant de mourir et ils iront en enfer. Mais le chemin du ciel est le même pour tous. Vous devez naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Vous devez venir au Père en mon nom et vous repentir de vos péchés. Vous devez sincèrement donner votre cœur à Dieu et le servir. Mon enfant, la prochaine chose que je vais te révéler est encore plus horrible. Je sais que cela va t'affliger, mais je veux que le monde entende et connaisse ce que l'Esprit dit aux églises. Dans ces cellules, à perte de vue, il n'y a que des âmes tourmentées. Chaque fois que les cellules sont pleines, l'enfer s'élargit pour le recevoir encore plus d'âmes. Vous avez toutes vos facultés en enfer et si sur terre vous étiez aveugle, alors vous serez aveugle en enfer. Si vous n'aviez qu'un bras, vous n'aurez qu'un bras en enfer. J'ai l'obligation de vous dire de vous repentir car l'enfer est un endroit terrible, effroyable, un lieu dramatique de tristesse et de pleurs éternels de regrets. Je vous en prie, je vous demande de croire ce que je dis car c'est la vérité. Cela a été tellement difficile pour moi, que j'ai été malade plusieurs fois pendant la préparation de ce livre. J'ai vu des choses en enfer qui sont trop horribles à raconter. Plus affreuses encore que les hurlements dans les tourments, les odeurs de chair en décomposition et l'horreur des feux de l'enfer avec ses profonds cratères. J'ai également vu des choses que Dieu ne m'a pas permise d'écrire. Au moment de votre mort, si vous êtes tenu de nouveau par l'Esprit de Dieu, votre âme ira directement au ciel. Si vous êtes un pécheur, vous irez directement dans cet enfer brûlant. Des démons avec de grosses chaînes vous traîneront et vous feront passer les portes de l'enfer où vous serez jeté dans les cratères de tourment. À un moment donné, vous serez amené devant Satan et vous serez tout à fait conscient de tout ce qui vous arrivera en ce lieu. Bien que les tourments des âmes soient différents de l'une à l'autre, Jésus m'a révélé que toutes sont brûlées par le feu. Il m'a aussi expliqué qu'il y a un endroit, en enfer, appelé le centre de divertissement. Les âmes confinées dans les cratères ne peuvent pas y être amenées. Le centre de divertissement ressemble à une piste de cirque. Ceux qui doivent être l'objet du divertissement sont amenés sur la piste centrale. Il s'agit de ceux qui, sur la terre, ont choisi de leur plein gré de servir Satan à la place de Dieu. Tout autour de cette arène sont assemblées les autres âmes, excepté celles des cratères. Les âmes placées au centre ont été des leaders du monde de l'occultisme lorsqu'il était sur terre des médiums, des devins, des sorcières, des voyants, des magiciens, c'est-à-dire tous ceux qui, sciemment, ont fait le choix de servir Satan. De leur vivant, ils ont trompé les gens et les ont amenés à suivre Satan et à vivre dans le péché. Ceux qui ont été trompés et conduits à tomber dans le péché viennent et tourmentent ceux qui les ont trompés. Un par un, ils sont autorisés à les torturer. Dans ce genre de tourment, les os spirituels sont écartelés et ensevelis dans différents endroits de l'enfer. L'âme est littéralement déchiquetée et les morceaux éparpillés à travers l'enfer dans une sorte de chasse au trésor démoniaque. Les âmes mutilées souffrent d'horribles douleurs. Ceux qui sont à l'extérieur de la piste peuvent jeter des pierres sur ceux qui sont dans l'arène. Les plus inimaginables méthodes de torture sont permises. Les âmes tourmentées ainsi la mort, mais c'est ça la mort éternelle. Dans tout ce qui est pratiqué, c'est Satan qui donne les ordres. Voici ce qu'est le centre de divertissement. Jésus me dit : j'ai ôté les clés de l'enfer des mains de Satan il y a de nombreuses années. Je suis venu ouvrir ces cellules pour libérer mon peuple, car à l'époque de l'Ancien Testament, avant que je donne ma vie sur la croix, le paradis était situé près de l'enfer. Ces cellules étaient autrefois dans le paradis, mais maintenant Satan s'en sert pour ses mauvais desseins et il en a fabriqué d'autres. Le paradis a été déplacé de l'endroit où il se trouvait, près de l'enfer, au moment de ma mort et de ma résurrection par la puissance de Dieu, mon Père. Lecteur, te repentiras-tu de tes péchés avant qu'il ne soit définitivement trop tard? Car nous devrons nous présenter tout devant le Seigneur pour le jugement. Une fois de plus je vous redis que ces cellules disposées sur environ 27 km de hauteur, servent de prison pour ceux qui ont été pour Satan des ouvriers de ténèbres, ceux qui ont été impliqués dans toutes sortes de péchés concernant les pouvoirs démoniaques, l'occultisme et l'adoration de Satan. Vient, je vais te montrer quelque chose, me dit Jésus. À un moment donné, nous étions à environ 800 mètres de hauteur, au centre du ventre de l'enfer, et au centre de ces quelques 27 km de prison. C'était comme dans un puits dont on ne pouvait voir ni le sommet ni le fond à cause des ténèbres. Une lumière jaune commença à éclairer cet endroit. Je serrai fort la main de Jésus. Seigneur, dis-je, pourquoi sommes-nous ici? Soudain survint un vent puissant comme un ouragan accompagné d'un bruit très fort. De grandes vagues de feu commencèrent à balayer les murs des cellules, brûlant tout sur leur passage. Les flammes atteignaient l'intérieur de chaque cellule, engendrant d'atroces cris de douleur et de détresse. Bien que Jésus et moi n'ayons pas été touchés par les flammes, Une grande peur me saisit lorsque je vis les âmes des perdus se précipiter vers le fond des petites cellules, tentant de trouver un endroit pour se cacher. Un son diabolique commença à se faire entendre à notre gauche. Je regardai et je vis Satan. Il était debout, nous tournant le dos. Il était entièrement dans les flammes, mais il ne se brûlait pas, au contraire. C'était lui qui produisait ce feu. Maintenant il s'engouffrait dans les flammes, prenant plaisir aux cris de ses pauvres âmes perdues, et quand il bougeait les bras, de grosses boules de feu partaient de lui. Des gémissements déchirants et de grands cris de douleur provenaient des cellules. Les âmes étaient brûlées vives à l'intérieur par cette chaleur plus intense que celle d'un lac de feu, et cependant elles ne pouvaient pas mourir. Les démons aussi se joignaient au rire de Satan tandis qu'il allait de cellule en cellule, torturant les perdus. Satan se nourrit du mal, me dit Jésus. Il savoure la douleur et la souffrance. Il en retire plus de puissance. J'observais Satan lorsqu'une flamme rouge orangée à bord brun s'amplifia tout autour de lui. Un coup de vent violent et furieux souffla sur ses vêtements, mais ils ne brûlèrent pas. L'odeur de la chair brûlée emplit l'atmosphère. Une nouvelle fois je réalisais que les horreurs de l'enfer sont bien réelles. Satan marchait au milieu des flammes de feu, mais elle ne pouvait pas le brûler. Bien que je ne l'ai aperçu que de dos, je pouvais entendre partout son rire effroyable. J'étais encore en train de l'observer quand il s'éleva dans un nuage de fumée, emportant avec lui le torrent de feu jusqu'au sommet du ventre de l'enfer. Il se retourna et d'une voix puissante il annonça que tant que toutes les âmes ne l'adoreraient pas, il les renverrait faire un tour dans l'arène de divertissement. Non, nous t'en prions, Satan, nous allons t'adorer. Toutes hurlaient à l'unisson, en commençant à se prosterner dans l'adoration du diable, et plus elles l'adoraient, plus grande était sa fin pour l'adoration. La clameur de ses louanges retentissait de plus en plus, il vivait encore sur terre. Plusieurs fois mon salut leur a été offert. Plusieurs fois mon esprit les a attirés. Mais ils n'ont pas voulu prêter l'oreille et s'approcher de moi pour être sauvés. Tandis que Jésus me parlait, Satan était en train de dire à ses prisonniers « Ah, le voilà votre royaume, le royaume que vous aurez pour toujours. Mon royaume recouvre toute la terre » ainsi que tandis que des pleurs de regret sortaient des cellules en feu, je l'entendais encore déclarer « Voilà ce que sera votre vie pour l'éternité, mon salut est libre, me dit Jésus. Quiconque le désire peut être épargné de ce lieu de punition éternelle. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si quelqu'un a été sorcier ou sorcière, et même s'il a fait un pacte écrit avec le diable, ma puissance le brisera et mon sang répandu le sauvera. J'ôterai de sa vie la malédiction du diable et je le rachèterai de l'enfer. Donne-moi ton cœur afin que j'enlève tes chaînes et que je puisse te rendre libre. » Chapitre 10 Le cœur de l'enfer. La nuit, je me rendais donc avec Jésus dans les profondeurs de l'enfer et toute la journée, l'enfer était constamment devant mes yeux. J'essayais de raconter à d'autres ce que j'avais vu, mais ils ne voulaient pas me croire. Je me sentais terriblement seul et ce n'est que par la grâce de Dieu que je pouvais continuer. Que toute la gloire en revienne au Seigneur Jésus-Christ. La nuit suivante, nous retournâmes en enfer. Nous marchâmes le long de la corniche du ventre de l'enfer. Je reconnus certaines parties que j'avais déjà visitées. À nouveau les mêmes odeurs de chair brûlée, de pourriture, de renfermé. Et de l'air brûlant partout. J'étais exténué. Jésus savait ce que je pensais. Il me dit « Je ne te quitterai pas. Je ne t'abandonnerai pas, je sais que tu es épuisé, mais je vais te fortifier. » Il me toucha et cela me fortifia, en effet. Nous continuâmes à avancer. Devant nous, j'aperçus une énorme masse noire, aussi grande qu'un terrain de football, qui semblait se mouvoir de haut en bas. Je me souvins que Jésus m'a dit que c'était le cœur de l'enfer, de cet immense cœur noir sortait comme des bras ou des cornes. Ces cornes partaient du cœur pour aller un peu partout à l'intérieur de l'enfer et également à l'extérieur sur la terre. Je me demandais si ces cornes étaient celles dont parle la Bible. Tout autour du cœur, la terre était desséchée et brunie. Dans un périmètre d'une dizaine de mètres, elle avait été brûlée et avait pris une couleur brune. Le cœur était d'un noir d'encre, mais une couleur comme celle de l'écaille d'une peau de serpent était incrustée dans le noir. Une horrible odeur émanait de ce cœur à chaque battement. Il battait en effet comme un vrai cœur, de haut en bas. Il était entouré d'un champ de force maléfique. Étonné, j'observais ce cœur et me demandais à quoi il pouvait bien servir ses ramifications, me dit Jésus, qui ressemblent aux artères d'un cœur, sont des sortes de pipelines qui remontent au travers de la terre et qui servent à expulser les démons à la surface. Ce sont les cornes que Daniel a vues. Elles représentent les royaumes sataniques de la terre. Certains ont déjà existé. D'autres vont s'établir. D'autres sont actuellement établis. Des royaumes sataniques vont se lever et l'Antichrist va régner sur beaucoup de peuples, de lieux et de choses. Il est possible que de vrais élus du Seigneur soient trompés par lui. Beaucoup vont s'égarer et adorer la bête et son image. De ses branches principales vont pousser d'autres cornes plus petites. De ces plus petites branches sortiront des démons, des mauvais esprits et toutes sortes de puissances diaboliques. Ils seront lâchés sur la terre et commandés par Satan pour faire toutes sortes d'œuvres mauvaises. Ces nations et ces puissances sataniques obéiront à la bête et beaucoup de gens la suivront dans la destruction. C'est ici, dans le cœur de l'enfer, que toutes ces choses ont leur origine. Voilà ce que Jésus a dit. Il m'a ordonné d'écrire ces paroles dans un livre et de les faire connaître au monde. Ces paroles sont la vérité. Ces révélations m'ont été données par le Seigneur Jésus-Christ afin que plan diabolique qu'il prépare pour l'avenir suive-moi, me dit Jésus. Nous prîmes un escalier qui conduisait à l'intérieur du cœur. Une porte était ouverte devant nous. À l'intérieur, c'était la nuit la plus complète. J'entendis des pleurs et l'odeur qu'on sentait était si infecte que je pouvais à peine respirer. Dans ces ténèbres, il ne m'était pas possible de voir autre chose que Jésus. J'avançais, blotti contre lui. Tout à coup, Jésus n'était plus là, le pire s'était produit. Je me retrouvais seul dans le cœur de l'enfer. Je fus saisi d'épouvante, la crainte s'empara de mon âme, la mort m'étreignit. Jésus, m'écriai-je, où es-tu? Je t'en prie, reviens Seigneur. J'appelai, mais personne ne répondit. Seul dans le cœur de l'enfer. Oh mon Dieu, dis-je en pleurant, il faut absolument que je sorte de là. Je me mis à courir dans la nuit, touchant les parois. Il me semblait qu'elle respirait, qu'elle bougeait sous mes mains. Mais je ne restai pas seul longtemps. J'entendis les éclats de rire des deux démons qu'entourait une faible lueur jaune. S'approchant de moi, ils m'empoignèrent les deux mains et me passèrent prestement des chaînes autour des bras. Ils commencèrent à m'entraîner vers les profondeurs du cœur. Je hurlais, criant à Jésus, mais il n'y avait pas de réponse. Je criais et me débattais de toutes mes forces, mais il me tira comme si je n'avais offert absolument aucune résistance. Comme nous descendions plus profondément dans le cœur, je ressentis une douleur très vive. Une force inconnue avait éraflé mon corps, et c'était comme si ma chair avait été arrachée. Je hurlais de terreur. Mes agresseurs me traînèrent jusqu'à une cellule et me jetèrent à l'intérieur. Alors qu'ils fermaient la porte, je hurlais encore plus fort. Ils se mirent à rire d'un rire sarcastique qui ne sert à rien de crier, me dirent-ils. Quand ton heure sera venue, on t'amènera devant notre maître, et il prendra plaisir à te torturer. L'odeur infecte du cœur avait maintenant complètement saturé mon corps. Mais pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je deviens folle? Mais laissez-moi sortir, laissez-moi sortir. Mes cris étaient sans résultat. Après un certain temps, je commençai à percevoir la paroi de la cellule dans laquelle j'étais. Elle était arrondie et lisse comme quelque chose de vivant. C'était vivant en effet et cela commença à bouger. Mon Dieu, criai-je, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, où es-tu? Mais seul l'écho de ma propre voix me répondait. Une terreur, la plus effroyable qui puisse exister, me saisit soudain. Pour la première fois depuis que Jésus m'avait quitté, je commençais à réaliser que j'étais vraiment perdu, sans plus aucun espoir. Je me mis à sangloter et j'appelai Jésus tant que je pus. C'est alors que j'entendis une voix dans les ténèbres qui ne te sert à rien d'appeler Jésus, il n'est pas ici. Une faible lueur commença à éclairer l'endroit. Pour la première fois, je pus apercevoir d'autres cellules, comme la mienne, encastrées dans le mur du cœur de l'enfer. Il y avait devant nous une sorte de peau, un peu comme la partie palmée de certains oiseaux, et à l'intérieur de chaque cellule une espèce de boue, de substance gluante, coulait au travers des cellules. Une voix de femme provenant de la cellule voisine se fit entendre « Tu es éperdu dans ce lieu de tourment », me dit-elle. Il n'y a aucune issue pour sortir de là. J'avais du mal à la distinguer tant la lueur était faible. La femme était éveillée autant que je l'étais, mais les occupants de toutes les autres cellules semblaient endormis ou comme dans un sorte d'évanouissement. « Il n'y a plus d'espoir », criait-elle, « plus d'espoir ». Un sentiment de solitude immense et de désespoir absolu s'abattit sur moi. Les paroles de la femme ne m'aidèrent en rien. « C'est ici le cœur de l'enfer », me dit-elle, « ici nous sommes tourmentés, mais pas autant que dans les autres parties de l'enfer. » Parfois, continua-t-elle, on nous emmène devant Satan et il prend plaisir à nous torturer. Satan fait de notre malheur sa nourriture et il accroît sa puissance avec nos cris de désespoir. Constamment, nos péchés sont devant nos yeux. Nous savons que nous sommes sans Dieu. Nous savons aussi qu'à une époque nous avons connu le Seigneur Jésus, mais que nous l'avons refusé. Nous avons tourné le dos à Dieu et fait ce que nous avons voulu. Avant d'arriver ici, j'étais une prostituée. J'attirais à moi des hommes et des femmes pour leur argent. Je faisais avec eux ce que je voulais. J'ai détruit beaucoup de foyers. Dans ces cellules, il y a beaucoup de lesbiennes, d'homosexuels et de gens adultères, mais je n'appartiens pas à ce monde, dis-je en hurlant dans les ténèbres. J'appartiens à Dieu. Mais pourquoi donc suis-je ici? Il n'y avait nulle réponse. Tout à coup, les démons revinrent et ouvrirent la porte de ma cellule. L'un me tirant, l'autre me poussant, ils m'entraînèrent sur un chemin rocailleux. Là où ils me touchaient, je sentais la brûlure d'une flamme sur ma chair, ils me brutalisaient. « Oh Jésus, où es-tu? S'il te plaît, aide-moi Jésus. » Un feu rugissant surgit soudain en face de moi, mais s'arrêta juste avant de m'atteindre. Maintenant, j'avais l'impression que l'on arrachait la chair de mon corps. La plus atroce douleur que j'aurais pu imaginer traversa mon être. Je souffrais au-delà du supportable. Quelque chose que je ne voyais pas était en train de déchirer mon corps, alors que des esprits méchants semblables à des chauves-souris me mordaient de partout. « Seigneur, m'écriai-je, ô mon Seigneur, où es-tu? S'il te plaît, délivre-moi. » Je fus traîné et poussé jusqu'à un vaste emplacement vide, dans ce cœur de l'enfer, puis jeté devant une sorte d'autel crasseux. Sur l'autel, un gros livre était ouvert. J'entendis un rire diabolique et je réalisais qu'au milieu de la saleté, j'étais étendu devant Satan. « Finalement, je t'ai eu, » dit-il. Je reculai, horrifié, mais aussitôt après, je m'aperçus qu'il s'adressait non pas à moi, mais à quelqu'un d'autre qui se trouvait devant moi. « Enfin, je peux te détruire, » dit-il. « Voyons ce que sera ta punition. » Il ouvrit le livre et fit courir son doigt le long des pages. Le nom de cette âme fut cité et la punition fut infligée. « Seigneur, m'écriai-je, est-ce possible que tout ça soit réel ? » Je fus la suivante. Les démons me poussèrent sur la plateforme et me forcèrent à me prosterner devant Satan. Le même rire diabolique jaillit de sa personne. « Il y a longtemps que je t'attendais et finalement je t'ai eu. » Il parlait très fort avec une satisfaction sadique. « Tu as essayé de m'échapper, mais maintenant je te tiens. » Une frayeur comme je n'en avais encore jamais connue me saisit. Ma chair fut à nouveau déchiquetée et une grosse chaîne fut enroulée autour de mon corps. Je me regardais tandis qu'on m'entourait de cette chaîne et que j'étais comme les autres. J'étais un squelette d'ossements humains morts et les vers grouillaient en moi. Un feu partit de mes pieds et m'enveloppa entièrement. Je hurlis de nouveau « Seigneur Jésus, qu'est-ce qui m'arrive? Où es-tu Jésus ?» Satan riait tant qu'il pouvait et dit « Il n'y a pas de Jésus ici. C'est moi ton roi désormais. Tu vas rester avec moi pour toujours. Tu m'appartiens maintenant. » J'étais épouvanté au plus haut point. Je ne pouvais ressentir ni Dieu, ni amour, ni paix, ni aucune chaleur humaine. Mais j'éprouvais des sentiments très aigus d'effroi et de douleurs atroces et haïssables au-delà de toute mesure. Je suppliais le Seigneur Jésus de me sauver, mais il n'y avait aucune réponse. « C'est moi ton Seigneur maintenant, » me dit Satan en levant la main. Il somma un démon de venir à ses côtés. Aussitôt un esprit malin très les monta sur la plateforme où je me tenais et m'empoigna. Il était corpulent. Son visage était comme celui d'une chauve-souris et des serres d'oiseaux de proie étaient à la place des mains. Une odeur nauséabonde émanait de lui. « Que vais-je faire d'elle, Seigneur Satan ?» demanda l'esprit malin, tandis qu'un autre démon, tout recouvert de poils et avec une tête de sanglier, me déchirait la chair. Lui aussi emmène là au plus profond du cœur, là où les horreurs sont constamment devant les yeux. Là elle apprendra à m'appeler Seigneur. Je fus entraîné plus loin, dans un endroit sombre, très sombre, et jeté dans quelque chose de froid et suintant. Comment peut-on sentir le froid et le brûlant en même temps? Je ne sais pas. Mais le feu brûlait mon corps et les vers grouillaient sur moi et en moi. Les gémissements de la mort emplissaient l'espace. « Seigneur Jésus, pourquoi suis-je ici? Mon Dieu, laisse-moi mourir. » Je pleurais, j'étais désespéré. Tout à coup, une lumière resplendit à l'endroit où j'étais assise. Jésus apparut et me prit dans ses bras. Instantanément je me retrouvais à la maison chez moi. « Mon Seigneur Jésus, où étais-tu ? » lui demandai-je, tandis que les larmes coulaient le long de mes joues. Il prit la parole avec tendresse et me dit « Mon enfant, l'enfer est une réalité. Mais tu n'aurais jamais pu en être aussi certaine si tu ne l'avais pas expérimenté pour toi-même. Maintenant que tu connais la vérité et ce qui arrive à une âme perdue en enfer, maintenant tu vas pouvoir en parler aux autres. » il fallait que je te fasse passer par cette expérience afin que tu connaisses ces choses sans le moindre doute. J'étais si triste et si fatiguée que je m'écroulais dans les bras de Jésus. Et bien qu'il m'ait restauré complètement, je voulais partir loin, très loin de Jésus, de ma famille et de tout le monde. Dans les jours qui ont suivi, chez moi, je fus très malade. Mon âme était terriblement attristée. Les horreurs de l'enfer étaient constamment devant mes yeux et ceci a duré plusieurs jours avant que je ne sois complètement rétabli. Chapitre 11 Les ténèbres du dehors. Nuit après nuit, Jésus et moi nous retournions en enfer afin que je puisse rapporter ces choses terribles. Chaque fois que nous passions dans le cœur, je me serrais très fort contre Jésus. Une peur atroce me saisissait chaque fois que je me souvenais de ce qui m'était arrivé dans ce lieu. Nous nous arrêtâmes devant un groupe de démons qui étaient en train de chanter et de réciter des louanges à Satan. Ils semblaient se réjouir beaucoup. « Je vais te faire entendre ce qu'ils disent, me dit Jésus. Nous allons nous rendre dans cette maison aujourd'hui et tourmenter ceux qui l'habitent. Satan nous donnera plus de pouvoir et s'y obéissons, disait-il. Oh oui, nous allons y provoquer beaucoup de douleurs, de maladies et beaucoup de chagrin à tous. Ils commencèrent à danser et à chanter des chants diaboliques d'adoration à Satan, glorifiant le mal. Un démon dit « Nous devons faire très attention et nous méfier de ceux qui croient en Jésus, car ils ont le pouvoir de nous chasser. » « Oui, dit un autre, au nom de Jésus nous devons nous enfuir mais nous n'allons pas vers ceux qui connaissent Jésus et la puissance de son nom, dit un autre mésange, dit Jésus, garde mon peuple de ces mauvais esprits, et leurs œuvres échouent. Je protège également beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés, bien qu'ils ne le sachent pas. J'ai beaucoup d'anges qui s'emploient à stopper les plans néfastes de Satan. Il y a, ajouta-t-il, beaucoup de démons dans l'air et sur la terre. Je t'ai permis de voir certains de ces démons, mais les autres ne le peuvent pas. Voilà pourquoi la vérité de l'Évangile doit être prêchée à chacun. La vérité affranchit les hommes et je les protège du mal et dans mon nom se trouve la délivrance et la liberté. J'ai tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, ne crains pas Satan, mais crains Dieu. Alors que nous avancions à travers l'enfer, nous arrivâmes devant un personnage très grand et très sombre. Il était enveloppé de ténèbres et avait l'apparence d'un ange. Il portait quelque chose dans sa main gauche. Jésus me dit « Cet endroit s'appelle les ténèbres du dehors. » J'entendis des pleurs et des grincements dedans. Nulle part ailleurs, jusque-là, je n'avais vu autant de désespoir que celui que je ressentis en ce lieu. L'ange qui se tenait devant nous n'avait pas d'ailes. Il mesurait une dizaine de mètres de hauteur et il savait exactement ce qu'il faisait. Il tenait un énorme disque dans la main gauche et il tournait lentement sur lui-même, en levant haut le disque comme pour se préparer à le lancer. Il y avait une flamme au milieu du disque et le pourtour était sombre. L'ange plaça la main sous le disque et se recula pour prendre plus d'élan. Je me demandais qui était cet ange géant et ce qu'il allait faire. Jésus connaissant mes pensées, me dit une nouvelle fois « C'est ici les ténèbres du dehors, souviens-toi de ce que dit ma parole et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans » Matthieu 22 13 et 25. 30 Seigneur cela veut dire que tes serviteurs sont là oui, dit Jésus. Les serviteurs qui m'ont tourné le dos après que je les ai appelés, les serviteurs qui ont aimé le monde plus que moi et qu'ils sont retournés se vautrer dans la boue du péché, les serviteurs qui n'ont pas voulu marcher dans la vérité et la sainteté, ils sont là. Il vaut mieux n'avoir jamais commencé plutôt que de retourner en arrière après m'avoir servi. Si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père, si vous vous repentez de vos péchés, je suis fidèle pour vous purifier de toute iniquité. Mais si vous ne vous repentez pas, je viendrai au moment où vous ne vous y attendrez pas et vous serez chassé parmi les incrédules et jeté dans les ténèbres du dehors. J'observais l'ange noir tandis qu'il lançait l'énorme disque au loin dans les ténèbres. Ma parole dit bien ce qu'elle veut dire quand il est écrit « Ils seront jetés dans les ténèbres du dehors ». À ce moment-là, Jésus et moi nous nous retrouvâmes dans les airs en train de suivre le disque dans l'espace. Nous nous approchâmes du bord du disque pour en observer l'intérieur. Il y avait du feu au centre et des gens y nageaient, émergeant de temps à autre des vagues de feu. Il n'y avait là ni démons, ni mauvais esprits, mais seulement des âmes qui brûlaient dans une mer de feu. À l'extérieur du disque, c'étaient les ténèbres les plus noires. Seule la lumière des flammes de l'intérieur éclairait la nuit. Dans cette lumière, je vis des âmes essayer de nager jusque sur les bords, certaines étaient sur le point d'y parvenir quand une attraction provenant du centre les ramenait dans les flammes. En observant plus attentivement, je vis qu'elles se transformaient en squelettes avec des âmes grisâtres comme du brouillard. Je compris alors qu'il ne s'agissait que d'une autre partie de l'enfer. Puis, comme dans une vision, je vis des anges ouvrir de seaux. Des nations et des royaumes apparurent devant eux. Quand les anges brisèrent les sceaux, des hommes et des femmes, des garçons et des filles se dirigèrent tout droit dans les flammes. Je fus saisi d'épouvante, je regardai passer ces serviteurs du Seigneur qui avaient chuté, en me demandant si je connaissais certains d'entre eux. Je n'arrivai pas à détourner mes yeux du spectacle de ces hommes qui marchaient tout droit vers le feu et que nul n'essayait d'arrêter. Je m'écriai « Seigneur, s'il te plaît, arrête-les avant qu'ils n'atteignent le feu que celui qui a des oreilles entende », répondit Jésus, « que celui qui a des yeux voit, mon enfant, élève ta voix contre le péché et le mal. Dis à mes serviteurs d'être fidèles et d'invoquer le nom du Seigneur. Si je t'emmène à travers cet horrible endroit, c'est pour que tu leur dises ce qu'est l'enfer. Certains ne te croiront pas, certains diront que Dieu est trop bon pour envoyer des hommes et des femmes en enfer, mais dis-leur que ma parole est la vérité. Dis-leur que les méchants et les incrédules auront leur part dans le lac de feu. » Une nuit suivante, Jésus et moi nous nous rendîmes dans une autre partie de l'enfer. « Nous sommes dans le bras droit de l'enfer, me dit Jésus. Nous montâmes sur une colline élevée et aride. Je plongeai mes regards tout en bas, et je vis un fleuve tourbillonnant. Il n'y avait pas de cratère de feu, ni de démons, ni de mauvais esprits, seulement le grand fleuve. Les bords du fleuve étaient cachés par les ténèbres. Je vis qu'il était rempli de sang et de feu. En observant de plus près, je remarquai de nombreuses âmes, liées les uns aux autres par des chaînes. Ces âmes se trouvaient dans le feu de l'enfer. Je remarquai, également, qu'elles avaient l'aspect de squelettes avec leur âme grisâtre comme du brouillard. Qu'est-ce que cela demandais-je au Seigneur? Il me répondit : ce sont les âmes des incrédules et de ceux qui ont vécu sans Dieu. Ce sont ceux qui ont aimé leur propre chair au lieu d'aimer Dieu. C'est à des hommes aimant des hommes et des femmes aimant des femmes qui n'ont pas voulu se repentir de leurs péchés et être sauvés. Ils ont aimé leur vie de péché et ont repoussé mon salut. Tout à coup, le feu commença à rugir comme une immense fournaise, se déplaçant en dévorant tout sur son passage. Le fleuve brûlait absolument tout. Regardant encore ces âmes dans le feu, je vis qu'elles étaient d'un rouge ardent et que leurs os étaient noirs et calcinés. J'entendais leurs gémissements de regret. Voilà ce qu'est leur tourment, dit le Seigneur. Maillon après maillon, ils sont enchaînés les uns aux autres. Ils ont eu des désirs envers la chair de leur propre sexe, les hommes entre eux et les femmes entre elles, pour pratiquer des choses contre nature. Ils ont conduit beaucoup de jeunes filles et de garçons dans ces actes de péché. Ils appelaient cela l'amour, mais, en réalité, c'était le péché et la mort. Je sais bien que beaucoup de garçons et de filles, d'hommes ou de femmes ont été amenés contre leur gré à pratiquer ces actes abominables, je les connais et je ne leur imputerai pas ce péché. Souviens-toi malgré tout, que je connais toutes choses et que ceux qui ont amené ces jeunes à pécher reçoivent la plus grande punition. Je juge avec justice. Ô pécheur, je dis repens-toi et je te ferai miséricorde. Invoque-moi et je te répondrai. Sans cesse, je les ai appelés à se repentir et à venir à moi. En mon nom, ils auraient pu être libérés. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont préféré les plaisirs de la chair à l'amour du Dieu vivant. J'entendais des hurlements de regret tandis que la rivière de sang coulait devant nous. Des multitudes d'âmes traversaient le fleuve de flammes. Elles avançaient par-dessus et par-dessous les vagues de feu. Il n'y avait pas d'autre issue que brûler et nager dans le lac de feu. Nous contournâmes la colline et arrivâmes devant une grande porte comportant de larges entailles. Elle était placée sur le flanc de la colline et une grosse chaîne se trouvait sur la porte. Des flammes rugissaient d'elle. La porte était fermée par de gros verrous. Je me demandais ce que tout cela signifiait. Tout à coup, le sombre visage d'un homme enveloppé d'une longue cape noire apparut devant la porte. On aurait dit qu'il avait 1000 ans. Derrière cette porte se trouve le puits de l'abîme, me dit Jésus. Ma parole est la vérité. Viens et écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La fin est proche. J'appelle les pécheurs à se repentir et à être sauvés. Maintenant, regarde. Nous étions dans une sorte de clairière et j'étais dans l'esprit avec le Seigneur. Je regardai la vision qui se présenta devant moi, et je vis un serpent ardent, comme embrassé qui fouettait l'air avec son énorme queue. J'observai ce serpent spirituel se mouvoir avec une puissance impressionnante. Je le vis alors retourner dans le bras droit de l'enfer et attendre. Je sus qu'il ne pouvait pas frapper la terre tant que ce ne serait pas l'heure prévue par Dieu. Je vis du feu et de la fumée monter de la terre et une brume étrange qui se formait autour de la terre. Je vis des zones de ténèbres apparaître çà et là, des cornes commencèrent à pousser sur la tête du serpent ardent et se développèrent jusqu'à couvrir la terre entière. Satan donna des ordres au serpent. Il y avait là des esprits mauvais et des démons. Je vis alors ce serpent embrasé et maléfique sortir du bras droit de l'enfer et commencer à frapper la terre avec une grande puissance, blessant et détruisant beaucoup de gens. Voilà ce qui va se produire dans les temps de la fin, me dit Jésus. Viens plus haut. Certaines de ces choses ont déjà commencé sur la terre, d'autres sont encore à venir, d'autres sont sur le point d'arriver très bientôt sur toute la terre. Le serpent ardent est une partie de la bête. Ces prophéties que vous lisez sont la vérité, ces révélations sont véritables. Veillez et priez, aimez-vous les uns les autres, soyez saints et gardez vos mains pures. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Marie et femme, aimez-vous comme je vous ai aimé. J'ai institué le mariage, et je l'ai béni avec ma parole. Gardez le lit conjugal saint. Lavez-vous de toute injustice et soyez purs comme je suis pur. Le peuple saint de Dieu a été égaré par des flatteurs. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. La compréhension vous viendra si vous ouvrez les oreilles et si vous m'écoutez. Ceci est mon message aux églises. Gardez-vous des faux prophètes qui se tiennent dans mon lieu saint et qui trompent par la flatterie. Écoute au accent circonflexe terre, mon peuple saint s'est endormi en écoutant de fausses doctrines. Réveillez-vous. Je vous dis que toute injustice est péché, purifiez-vous de tout péché de la chair et de l'esprit. Mes saints prophètes ont vécu des vies saintes, mais vous, vous vous rebellez contre moi et ma sainteté, vous attirez la malédiction sur vous-même, vous avez péché et vous avez amené sur vous l'esclavage de la maladie et de la mort. Vous avez commis l'iniquité, vous avez agi méchamment, vous vous êtes rebellé contre moi, vous vous êtes éloigné de mes préceptes et de mes jugements, vous n'avez pas prêté l'oreille aux paroles de mes serviteurs les prophètes et les prophétesses. Ce sont des malédictions et non des bénédictions qui sont tombées sur vous. Vous refusez toujours de vous tourner vers moi et de vous repentir de vos péchés. Écoutez, vous ministres de la parole, n'enseignez pas à mon peuple à pécher contre son Dieu. Rappelez-vous que le jugement commence par la maison de Dieu. À moins que des péchés que vous avez enseignés à mon peuple. Pensez-vous que je sois aveugle pour ne pas voir ou sourd pour ne pas entendre? Vous qui retenez la vérité captive dans l'injustice et qui garnissez vos poches avec l'argent et l'or du pauvre, repentez-vous. Je vous le dis avant qu'il ne soit trop tard. Au jour du jugement, vous vous tiendrez seul devant moi et vous rendrez compte de ce que vous avez fait avec ma sainte parole. Si vous m'invoquez dans la repentance, j'ôterai la malédiction de vos pays et je vous bénirai d'une puissante bénédiction. Si vous vous repentez et si vous avez honte de vos péchés, j'aurai miséricorde et compassion, je ne me souviendrai plus de vos péchés, priez afin d'être plus que vainqueur. Réveillez-vous à la vie et vivez, repentez-vous devant le peuple que vous avez égaré en lui enseignant de fausses doctrines, dites-lui que vous avez péché et dispersé mes brebis, repentez-vous devant mon peuple. Voici, je suis en train de préparer une armée sainte, elle fera pour moi de puissants exploits et détruira vos hauts lieux, ce sera une armée d'hommes saints, de femmes saintes, d'enfants, de jeunes gens et de jeunes filles saints. Ils ont été loin pour annoncer le véritable évangile, pour imposer les mains aux malades, et appeler les pécheurs à la repentance. C'est une armée d'hommes qui travaillent, de femmes au foyer, de célibataires, d'hommes et de femmes, d'écoliers, ce sont des gens ordinaires, car peu de gens distingués ont répondu à mon appel. Dans le passé, ces personnes ont été incomprises, maltraitées, abusées et rejetées. Mais je les bénis avec l'audace en sainteté et en esprit. Ils commenceront à accomplir ma prophétie et à exécuter ma volonté. En eux je marcherai, je parlerai et je travaillerai. Ce sont ceux qui se sont tournés vers moi de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force et de toute leur pensée. Cette armée ramènera beaucoup d'hommes à la justice et à la pureté de l'esprit. Très bientôt, je vais commencer à agir au milieu d'eux et choisir ceux que je désire pour mon armée. Je les chercherai dans les villes et les cités. Beaucoup seront surpris du choix que j'aurai fait. Vous les verrez commencer à agir à travers le pays, accomplissant des exploits pour l'amour de mon nom. Soyez attentifs et vous verrez ma puissance à l'œuvre. Je vous le répète, ne souillez pas le lit conjugal, ne souillez pas votre corps dans lequel habite le Saint-Esprit, les péchés du corps conduisent aux péchés de l'esprit. J'ai écrit l'homme pour la femme et la femme pour l'homme et décrété que les deux devaient être unis dans les liens sacrés du mariage. Je vous le répète, réveillez-vous. Cette armée qui a été annoncée par le prophète Joël, se lèvera et fera de grandes choses pour Dieu. Le Fils de la justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes. Il mettra sous ses pieds les méchants et ils seront réduits en cendres sous la plante de ses pieds. Ils seront appelés l'armée du Seigneur. Je leur accorderai des dons et ils accompliront mes œuvres puissantes. Ils feront des exploits pour le Seigneur de gloire. Je répandrai mon esprit sur toute chair et vos filles prophétiseront. Cette armée combattra les puissances du mal et détruira beaucoup d'œuvres de Satan. Les soldats de cette armée gagneront beaucoup d'âmes à Jésus-Christ avant que le jour de bête ne se lève. Puis Jésus me dit: viens, il est temps de rentrer maintenant. Finalement nous quittâmes le bras gauche de l'enfer. En partant, Jésus dit encore: ceci dit aux membres de vos familles que je les aime et que je les reprends dans l'amour, dites-leur que je les garderai du mal ainsi ils mettent leur confiance en moi. Les mâchoires de l'enfer. La nuit suivante, Jésus et moi nous entrâmes dans les mâchoires de l'enfer. Mon enfant, me dit Jésus, ce sont ici les mâchoires de l'enfer. Chaque fois que s'ouvre la bouche de l'enfer, tu peux entendre ce grand bruit. Aussi loin que mon regard pouvait porter, ce n'était qu'un entassement d'âmes tout le long des pentes de la colline. Je pouvais entendre leurs pleurs. Ces âmes, me dit Jésus, sont des personnes qui viennent tout juste de mourir sur la terre et qui arrivent en enfer. Cette activité se poursuit jour et nuit. Cette partie de l'enfer était plongée dans une semi-obscurité et un brouillard sale. Une faible lueur jaunâtre filtrait à peine et l'odeur de chair rôtie et de pourriture était presque insoutenable. À chaque fois que les mâchoires de l'enfer s'ouvraient, elles déchargeaient un lot d'hommes perdus, comme dans un dépotoir. Mon âme était en état de choc. Je me tournai alors vers Jésus, mais il n'était plus là-haut. Non, ça ne va pas recommencer, Jésus, où es-tu? Jésus était parti et je me sentis vraiment perdu. Jésus, où es-tu? Cria je dis. Tandis que je criais en cherchant Jésus, je commençais à courir. Je fus stoppé par un démon de forte stature qui portait une chaîne. Il se mit à rire et me dit: où veux-tu aller en courant, femme? Jésus n'est pas ici pour te sauver. Tu es en enfer pour toujours ou non? Cria je dis. Laisse-moi partir. Je le frappai de toutes mes forces, mais je fus très vite enchaîné et jeté à terre. Tandis que je gisais là, une chose étrange commença à engluer mon corps avec une telle puanteur que je me sentis mal. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Je sentis alors ma chair et ma peau commencer à se détacher de mes os. Je hurlai et hurlai encore, épouvanté. Jésus cria je dis. Où es-tu? Puis je commençais à sentir les vers en moi. J'essayais de les enlever, mais plusieurs autres prenaient leur place aussitôt. Je pouvais véritablement ressentir la décomposition de mon corps. Je me demandais si je n'étais pas en train de faire un cauchemar. Étais-je vraiment en enfer? Avais-je commis quelque péché contre Dieu? Avais-je perdu mon salut? Horrifié, je me rendis compte que j'étais en enfer comme toutes ces autres âmes que j'avais vues et à qui j'avais parlé. Je n'étais qu'un squelette sale et cependant je pouvais ressentir tout ce qui m'arrivait. Je voyais d'autres personnes dans le même cas que moi et ceci à perte de vue. Je voulais mourir, mais je ne le pouvais pas. Je sentis le feu s'allumer dans mes jambes. Je suppliai Jésus, où es-tu? À cet instant un démon me dit: ton Jésus t'a laissé en bas, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, tu es la propriété de Satan. Un rire diabolique lui échappa. Je pensais: comment vais-je en sortir? Que va-t-il se passer? Qu'ai-je fait pour mériter l'enfer? Seigneur, sauve-moi, disais-je en pleurant. Encore et encore, je plorais Dieu de me venir en aide. Je ne pouvais ni le voir ni ressentir sa présence. J'étais en enfer tout comme le reste de ceux que j'avais vus. Je m'écroulais au sol dans la douleur et je pleurais. Je sentais que j'étais perdu pour l'éternité. Je commençais à chanter un cantique sur la vie en Jésus et sur la puissance de son sang qui peut sauver du péché. Mais à cet instant, de puissants démons avec des lances arrivèrent en hurlant: arrête. Ici Satan est Dieu. Nous haïssons Jésus et tout ce qu'il représente. Ils me donnèrent des coups de lance et je sentis de très vives brûlures quand les pointes transpercèrent mon être. Ils me transpercèrent encore et encore. Je m'arrêtai de chanter et au bout d'un long moment ils finirent par me ramener dans la cellule. Des plaintes et des gémissements traversaient l'atmosphère souillée. Un gros rat grimpa sur ma jambe et me mordit. Je me mis à hurler et je le repoussai violemment. Je ressentis une forte douleur. Un feu venant de nulle part commença lentement à brûler dans ma direction. J'étais un pécheur en enfer. Mes cris semblaient remplir entièrement les mâchoires de l'enfer. J'avais conscience de tout ce qui m'arrivait. Je voulais mourir, mais je ne le pouvais pas. Je criais en frappant de mes poings squelettiques le sol en terre battue de ma cellule. Je hurlais en pleurant, mais personne n'y prêtait attention. Tout d'un coup, je me sentis hissé hors de ma cellule par une force invisible. Quand j'eus repris connaissance, le Seigneur et moi nous étions debout devant ma maison. Mais pourquoi, Seigneur? M'écriai-je, pourquoi? et je tombai désespéré à ses pieds. « Sois en paix, reste tranquille, me dit Jésus. » Aussitôt je ressentis la paix. Il me souleva tendrement et je m'endormis dans ses bras. Le jour suivant, quand je me suis réveillé, j'étais très malade. Pendant des jours, j'ai revécu les horreurs de l'enfer et ses tourments. La nuit, je me réveillais en hurlant et en disant que des vers étaient en train de grouiller en moi. J'étais complètement traumatisé par l'enfer. Le ciel. Après avoir vécu cet abandon dans les mâchoires de l'enfer, je fus malade pendant plusieurs jours. Je devais laisser la lumière allumée pour dormir. J'avais besoin d'avoir la Bible constamment près de moi, et je la lisais tout le temps. Mon âme était en état de choc et je savais désormais ce qu'une âme perdue en Dieu lorsqu'elle est en enfer. Jésus me disait « Sois en paix, reste tranquille » et la paix inondait mon âme. Mais quelques minutes après, je me mettais à sursauter en hurlant d'une peur hystérique. Pendant toute une période, je savais que je n'étais jamais seul. Jésus était toujours présent, mais malgré le fait de savoir qu'il était là, parfois je n'arrivais pas à sentir sa présence, et j'avais tellement peur de retourner en enfer que je restais dans l'effroi, même parfois avec Jésus près de moi. Je voudrais vous certifier, une fois encore, que les choses que vous avez lues sont vraies. L'enfer est véritablement un lieu de tourment et de flammes. Mais je voudrais aussi vous dire que le ciel est tout autant une réalité et qu'il peut être votre demeure pour l'éternité. Jésus me dit « Je veux te montrer l'amour et la bonté de Dieu ainsi que certaines parties du ciel. Je veux que tu vois les œuvres merveilleuses du Seigneur qui sont si belles à contempler. En face de nous, je vis deux planètes géantes, magnifiques et glorieuses dans toute leur splendeur. Dieu lui-même y était la lumière. Un ange vint à notre rencontre et me dit « Contemple la puissance, la force et la majesté de Dieu. Laisse-moi te montrer le lieu qu'il a créé pour ses enfants. » Soudain une planète énorme resplendit devant nous, une planète aussi grande que la Terre. J'entendis alors la voix du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Le Père et le Fils sont un, et le Père et le Saint-Esprit sont un. J'ai envoyé mon Fils mourir sur une croix afin que nul ne soit perdu. Mais, je voulais te montrer l'endroit que j'ai préparé pour mes enfants. Je prends le plus grand soin de tous mes enfants. Je prête attention quand une maman perd un enfant, même lorsqu'il s'agit d'une perte avant terme comme lors de ta fausse couche. Tu vois, je connais toutes choses et je veille. Dès l'instant où il y a une vie dans un sein maternel, je le sais. Je sais tout au sujet des bébés contenus dans le ventre de leur mère. Ces avortements provoqués pour des enfants non désirés, je les connais. Je connais ceux qui sont morts à la naissance et ceux qui sont nés avec des malformations. Dès le moment de la conception, une âme existe. Mes anges descendent sur terre et m'apportent les enfants qui viennent de mourir. J'ai pour eux un lieu où ils peuvent se développer, grandir, recevoir la connaissance et être aimés. Je leur donne des corps en restaurant toute partie qui pouvait manquer. Je leur donne des corps glorifiés. Sur toute cette planète, on percevait le sentiment d'être aimé, la sensation d'un profond bien-être. La perfection était partout. Ici et là, au milieu d'une végétation luxuriante, parmi l'herbe verte et à côté de sièges de marbre et des bancs de bois lustrés. Il y avait partout, où qu'on regarde, des enfants qui se livraient à toutes sortes d'activités. Chaque enfant était vêtu d'une robe blanche, sans la moindre tache et avait des sandales aux pieds. Les robes blanches étaient si éclatantes qu'elles scintillaient dans la lumière étincelante de la planète. Une profusion de couleurs accentuait en ces lieux la blancheur des robes des enfants. Les anges étaient les gardiens des portes, et les noms des enfants étaient tous écrits dans le livre. Je vis des enfants étudier la parole de Dieu et être enseignés à la musique avec un livre en or. J'ai été surprise de voir toutes sortes d'animaux grimper sur les enfants ou s'asseoir à leur côté tandis qu'ils étaient dans cette école angélique. Il n'y avait ni pleurs, ni tristesse. Toutes choses étaient magnifiques au plus haut point et la joie et le bonheur régnaient partout. L'ange alors me montra une autre planète qui flamboyait devant moi comme une grande lumière qui resplendissait comme un million d'étoiles. Tout sur cette planète était merveilleux et plein de vie. Dans le lointain, je vis deux montagnes, elles étaient d'or pur. Plus près de moi se trouvaient deux portails d'or, incrustés de diamants et d'autres pierres précieuses. Je sus qu'il s'agissait de la nouvelle terre et la cité qui resplendissait devant moi était la nouvelle Jérusalem, la cité de Dieu qui descendra sur terre. Puis je me retrouvai sur notre vieille terre, la terre telle qu'elle sera avant le feu final qui va l'épurer et la purifier pour le glorieux dessein de Dieu. Et là, également, il y avait une nouvelle Jérusalem, la capitale du millénium. Je vis des gens sortir de grottes et descendre des montagnes et se diriger vers la cité. Là Jésus était roi et toutes les nations de la terre lui offraient des présents et lui rendaient hommage. Jésus me dit « Je vais bientôt revenir et emmener les miens au ciel avec moi. D'abord se lèveront les morts qui ont été justifiés, ensuite les vivants qui seront restés seront appelés à monter me rejoindre dans les airs. Après cela, l'Antichrist règnera sur la terre pendant un temps fixé, il y aura des tribulations comme il n'y en a jamais eu jusqu'à maintenant et comme il n'y en aura jamais plus. Alors je reviendrai avec mes saints et Satan sera chassé dans le puits de l'abîme où il restera 1000 ans. Pendant ces 1000 ans, je régnerai sur toute la terre depuis Jérusalem. Quand le millénium sera passé, Satan sera libéré pour un temps et je le vaincrai par l'éclat de ma venue. Puis cette vieille terre passera. Alors il y aura une nouvelle terre et une nouvelle Jérusalem qui descendra sur elle et je régnerai au siècle des siècles. » Vision du ciel. Certaines des visions qui vont suivre m'ont été données avant que Jésus ne m'emmène en enfer. D'autres m'ont été données vers la fin de mon voyage en enfer. Je reçus cette vision alors que j'étais en prière. Je vis des anges en train de lire les enregistrements de nos actes terrestres. Certains d'entre eux avaient des ailes, d'autres n'en avaient pas, certains étaient très grands, d'autres étaient petits, mais leur visage était tout différent, pareillement à ce qui se passe pour les hommes, ici sur terre. On pouvait identifier les anges à leur visage. Je vis des anges activement occupés à tailler de très gros diamants et les placer dans les fondations de magnifiques demeures. Les diamants mesuraient une trentaine de centimètres d'épaisseur et une soixantaine de centimètres de longueur. Ils étaient vraiment splendides. Chaque fois qu'une âme est gagnée pour Dieu, un diamant est ajouté à la demeure du gagneur d'âme. Aucun travail n'est fait en vain, s'il est accompli pour Dieu. Une autre fois, j'eus cette vision céleste, alors que j'étais en prière. J'étais dans l'esprit et un ange vint vers moi. Il m'emmena dans les cieux. À nouveau il y eut des scènes merveilleuses de lumière déferlante et de gloire éblouissante. C'était très impressionnant de contempler ce déploiement de la puissance de Dieu. Tandis que l'ange et moi nous nous approchions de deux portails géants, dans un mur immense, nous vîmes deux anges exceptionnellement grands qui tenaient des épées. Ils mesuraient une quinzaine de mètres de hauteur et leurs cheveux étaient comme de l'or filé. Les portails étaient tellement hauts que je ne pouvais pas en voir le sommet. C'était la plus belle œuvre d'art que je n'avais encore jamais vue. Ils étaient gravés à la main de sculptures formant des plissements complexes comme des tentures avec des strates et des incrustations de perles, de diamants, de rubis, de saphirs, et d'autres pierres précieuses. Elles s'ouvrirent alors vers l'extérieur et un ange tenant à la main un livre arriva de derrière les portes. Après avoir fait une vérification dans le livre, c'est d'un signe approbateur qu'il confirma que je pouvais entrer. Lecteur, vous ne pourrez pas entrer au ciel si votre nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le Seigneur me donna encore la vision suivante. Je vis une grande échelle spirituelle qui descendait du ciel jusqu'à la terre. À une extrémité de l'échelle, des anges descendaient vers la terre, tandis qu'à l'autre extrémité ils en remontaient. Les anges n'avaient pas d'ailes, mais chacun tenait un livre avec un nom sur la couverture. Certains anges semblaient indiquer des directions et répondre à des questions posées par d'autres anges. Une fois la direction et les réponses données, ils disparaissaient. Je vis également d'autres échelles, en d'autres endroits de la terre, les anges étaient en constant mouvement, ils montaient et descendaient, messagers de Dieu, ils exécutaient ses ordres. Ils se déplaçaient avec intrépidité et autorité. Dans une autre vision, un ange m'emmena jusqu'au ciel et me montra une immense salle aux murs d'or massif. Des lettres de l'alphabet étaient gravées çà et là sur les murs. Cela ressemblait assez à une gigantesque bibliothèque. Mais les livres étaient encastrés dans le mur au lieu d'être posés sur des étagères. Des anges en robe blanche sortaient ces livres des murs et les consultaient soigneusement. Ils semblaient avoir reçu des directives très strictes dans leurs tâches. Je remarquai que les livres avaient d'épaisses couvertures d'or et que certaines pages étaient rouges. Ces livres étaient très beaux. L'ange qui était avec moi me dit que ces livres étaient les enregistrements des vies de chaque être humain né sur la terre. On me dit qu'il y avait d'ailleurs bien d'autres salles pareilles à celle-ci avec encore beaucoup plus de dossiers. De temps en temps, les archanges emportaient les registres devant Dieu afin qu'il donne son approbation ou sa désapprobation. Ces livres contenaient les requêtes de prière, les prophéties, les attitudes, la croissance dans le Seigneur, les âmes conduites à Christ, le fruit de l'Esprit et bien d'autres choses encore. Tout ce que nous faisons sur terre est enregistré dans un de ces livres, par les anges. Il n'était pas rare qu'un ange sorte un des livres et en nettoie les pages avec un chiffon doux. Les pages ainsi nettoyées devenaient rouges. Je voudrais vous certifier une fois encore que les choses que vous avez lues dans ce livre sont vraies. L'enfer est véritablement un lieu de tourment et de flammes. En tant que servant de Dieu, je me suis soumise à la volonté du Seigneur Jésus-Christ, et j'ai fidèlement enregistré ces choses qu'il m'a montrées et tout ce qu'il m'a dit. Pour retirer un meilleur bénéfice de ce livre, vous devriez le lire avec la Bible à vos côtés et comparer ce qu'il dit à ce que disent les Saintes Écritures. Que Dieu utilise ce livre pour sa gloire. Mary Catherine Baxter.